Vous êtes sur RTL.
Bonne fin de semaine à toute l'équipe et à lundi. À lundi. Notre but ce matin est de vous surprendre, en plus de vous informer bien entendu. Et je peux vous dire que des surprises, nous n'allons pas en manquer. À commencer par le retour de William Galibert dans la bonne ville d'Emerin, 3000 habitants du département du Nord qui votent comme la France. Vous allez passer un excellent moment, je ne vous en dis pas plus, dès 7h15. Vous connaissez l'expression, une époque moyenâgeuse. Nouvelle surprise, mais à 7h40, avec l'invité de Benjamin Sportouche, il reçoit ce matin l'historien médiéviste Florian Mazel, qui publie une nouvelle histoire du Moyen-Âge, la peste de 1348. Comme une forme de Covid, la naissance de la ville et de ceux qui s'y perdent, la société inégalitaire. Bref, le Moyen-Âge comme 10 siècles, véritable laboratoire de notre modernité, ce sera passionnant. 8h20, je reçois le professeur David Kayat. Ce cancérologue nous a souvent passionnés par son enthousiasme, mais là, il suffit de donner le titre de son dernier livre, « Prévenir et soigner le cancer pour les nuls ». L'ouvrage vient de paraître aux éditions First. Enfin, je vous signale qu'à 9h, dans « Laissez-vous tenter », nous recevons ce matin Nolwenn Leroy pour la sortie de son 8e album « La Cavale ». Celle qui fut la marraine de notre nouveau studio y revient avec un nouveau disque sous le bras et nous vous l'offrirons. Nous sommes le vendredi 12 novembre 2021. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La machination de la Biélorussie à la frontière avec la Pologne.
Nicolas Burnand, envoyé spécial de RTL, a pu rencontrer des migrants qui accréditent clairement la thèse d'une mise en scène politique du président Loukachenko. La lycéenne retrouvée saine et sauve en Mayenne mardi, de nouveau entendue par les enquêteurs aujourd'hui. Elle devra préciser ses premières déclarations. Fait en France, origine France, c'est parfois compliqué de savoir si l'on consomme bien bleu, blanc, rouge. Un logo officiel vient d'être lancé pour tenter d'y voir plus clair. Et puis en football, France-Kazakhstan demain au Parc des Princes et pas au Stade de France. 8 ans après le dernier match des Bleus, porte d'Auteuil et pas toujours que de bons souvenirs.
La politique, Olivier Bost.
Et bien justement, les migrants, nouvelle arme de déstabilisation massive.
Vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
Une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains. Les mots employés dans une déclaration après un conseil de sécurité de l'ONU en urgence. Réunion à propos de la crise entre l'UE et la Biélorussie. Nicolas Burnand, vous êtes l'envoyé spécial de RTL en Pologne. Vous avez pu rencontrer certains de ces migrants. Ils sont des milliers toujours pris au piège à la frontière. Et leurs propos confirment clairement ce matin une manipulation politique de la part du président Loukachenko.
Oui, Chérov a le regard de ceux qui ont survécu à l'enfer de la forêt. Barbe courte, enveloppé dans sa doudoune, ce kurde syrien de 36 ans a rejoint l'Europe, piégé par la folie du régime biélorusse.
I get ticket Beirut City. Travel office.
J'ai acheté mon billet à Beyrouth dans une agence.
Hotel Biélorusse.
Un vol direct pour Minsk avec un hôtel 4 étoiles, visa.
Visa, full package, $4,000.
4 000 $. Je suis arrivé à Minsk et ensuite une voiture m'a conduit à la frontière.
Get me to border.
Là, les migrants sont regroupés par les gardes frontières, puis emmenés dans les bois froids et humides. Ils sont alors violemment poussés vers la Pologne.
I see soldier Belarus.
Il y avait des gardes frontières
belarusses.
Ils m'ont tabassé, ils m'ont cassé des côtes.
Kilomètres.
Et ils m'ont dit, marche 6 kilomètres. Les Polonais m'ont refoulé 3 fois. Je ne pouvais pas manger, pas boire.
Il
faisait froid, sombre, c'était dangereux. J'ai cru que j'allais mourir.
À bout de force, il parvient finalement à passer, s'écroule dans un champ. Il est hospitalisé durant 8 jours. Aidé par une association locale, il se repose désormais dans ce centre d'accueil.
Le gouvernement biélorusse.
C'est le gouvernement biélorusse qui fait ça. Des gens meurent et il faut faire quelque chose. Moi, je suis cuisinier. Je voudrais avoir un travail, commencer une nouvelle vie, être en sécurité.
Aujourd'hui, Chérov ne souhaite pas demander l'asile en Pologne. Il veut poursuivre sa route jusqu'aux Pays-Bas pour rejoindre des membres de sa famille.
Le reportage de Nicolas Burnand, l'envoyé spécial de RTL en Pologne.
Il est 7h03. Un nouvel interrogatoire aujourd'hui pour la lycéenne portée disparue en Mayenne.
Après avoir retrouvé sa famille avant-hier, Lisa va devoir s'expliquer à nouveau. C'est ce que révèlent ce matin nos confrères du Parisien. Car il semble y avoir plusieurs incohérences entre son récit et les éléments de l'enquête, Thomas Proutot.
Oui, l'adolescente devrait être auditionnée longuement aujourd'hui, cette fois-ci de manière beaucoup plus complète, d'après le journal Le Parisien qui a révélé l'information hier soir. La précédente audition remontait c'est à mercredi, au lendemain de sa réapparition dans un petit restaurant de Sablé-sur-Sarthe. La jeune fille était encore très affaiblie et en état de choc. Et selon le quotidien, les enquêteurs ont des doutes sur le récit qu'elle avait alors livré sur son lit d'hôpital, celui d'un kidnapping par deux ravisseurs qui l'auraient emmenée dans une camionnette verte, car aucun élément recueilli par les gendarmes ne serait venu à ce stade corroborer la version de l'enlèvement, ni les vidéosurveillances, ni les témoignages des voisins et des habitants de la région. La camionnette verte, notamment, n'a été vue par personne. Les enquêteurs vont donc reprendre point par point les dires de la jeune joggeuse et tâcher de comprendre si ces incohérences sont dues à un traumatisme ou à une volonté de dissimuler une autre vérité.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. RTL, vous le révélez dès hier, Aminata Diallo sortie de garde à vue sans charge retenue contre elle dans l'agression de sa coéquipière du PSG, Keira Amraoui. Son ami, également interrogé, a aussi été relâché, mais l'enquête se poursuit car les deux agresseurs de la footballeuse sont toujours recherchés.
Cocorico, le salon du Made in France a ouvert ses portes hier à Paris.
10 000 visiteurs attendus jusqu'à dimanche. L'événement a été inauguré avec notamment l'annonce par le gouvernement d'un logo fabriqué en France. Objectif: permettre aux consommateurs de s'y retrouver, car c'est parfois un vrai casse-tête, Pierre Herbulot, pour savoir si on a devant soi un produit bleu-blanc-rouge.
Fabriqué en France, made in France et origine France garantie, voilà les trois seuls repères qui permettent d'identifier un produit effectivement français. C'est beaucoup, et les industriels en profitent en ajoutant leur propre référence à l'Hexagone, explique Julien Bialard du vrai label Origine France Garantie.
Alors par exemple, vous avez des mentions, type des noix de cajou avec marqué produit contrôlé en France et avec un beau drapeau bleu blanc rouge en dessous. 100% marque française, ça c'est pareil, la marque ne veut pas dire que c'est fabriqué en France. Il faut faire très attention et être sûr que la mention précise bien la fabrication et non tout autre rattachement au drapeau français.
Cette technique s'appelle le franco-lavage. Le consommateur est induit en erreur et ça coûte très cher à l'État français, affirme Amandine S. de la FIMIF, la fédération indépendante du Made in France.
Le manque à gagner, la FIMIF l'estime à 4,5 milliards d'euros. Et ça, c'est 8% du déficit commercial de la France en 2019, par exemple. C'est l'équivalent de 50 000 emplois par an qui sont perdus en France.
Interpellé sur le sujet, le gouvernement promet de renforcer les contrôles, y compris dans les allées mêmes du salon du Made in France.
Pierre Herbulot du service économie de RTL.
Alors, on a découvert le franco-lavage, le Made in France, en tout cas, qui s'impose de plus en plus, mais qui a un coût trois fois plus cher si on se penche sur le textile. Par exemple, ce sera l'objet de notre brigade RTL dans le journal de 8h. On marque une pause dans un instant. Renforcer le contrôle parental pour les plus jeunes, c'est l'objectif d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée. On va vous expliquer tout ça.
RTL Matin.
RTL 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin. Il suffit parfois d'un clic pour que nos enfants se retrouvent face à des images qu'ils ne devraient pas voir.
Des contenus violents ou pornographiques par exemple, la solution, le contrôle parental, parfois peu utilisé. Et c'est une information RTL, un député vient de déposer une proposition de loi pour que les constructeurs de smartphones ou d'ordinateurs prévoient automatiquement le dispositif dans leurs appareils, charge ensuite aux parents de créer facilement le profil, car ceux que vous avez rencontrés, Mourad Jabari, peinent parfois à protéger les jeunes devant leurs écrans.
Comme beaucoup de collégiens, pour son entrée en 6e il y a 2 ans, Victor, le papa, a offert un smartphone à Sybille, sa fille de 13 ans. Il est devenu son compagnon du quotidien.
Il n'y a pas d'application de contrôle parental qui sont installées. On en discute, on regarde un peu ce qu'elle fait, mais il n'y a pas d'application qui contrôle quoi que ce soit.
Et son téléphone n'est pas forcément un ami qui lui veut du bien. C'est Sybille qui le dit, elle aimerait un accès limité à son smartphone.
C'est bien parce qu'en même temps, il contrôle ce que je fais, donc je ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Bah oui, il peut y avoir des trucs dangereux dessus. Enfin, par exemple, acheter ou rencontrer des gens que je connais pas ou... Et grâce à ce contrôle parental, bah, je pourrais pas le faire et moi me mettre en danger en soi.
Un danger insidieux, 80% des 10-14 ans déclarent aller sur Internet, sur les réseaux sociaux sans l'accord de leurs parents, sur leur téléphone, la tablette ou l'ordinateur familial. Et face à cela, Christine et Philippe se sont souvent sentis impuissants.
On connaît pas toutes les applications, eux ils les connaissent plus que nous. Et donc on a du mal à gérer tout ça. La chance qu'on a, c'est qu'Agathe a un frère de 25 ans et c'est lui qui a géré tous les contrôles parentaux. Je pense que nous, on n'aurait pas été capable de tout faire.
Notre fille a souffert de harcèlement. Internet, viral, donc des messages qui se propagent. Plus on peut nous les protéger, mieux c'est.
Des parents un peu dépassés, mais évidemment convaincus par un contrôle parental qui serait installé par défaut et simple d'utilisation.
Le reportage de Morad Jabari pour RTL. Le secteur connaît un vrai boom et va créer 50 000 emplois d'ici 3 ans, 100 000 d'ici 10 ans. On parle du vélo, des réparateurs, des constructeurs. RTL a mené l'enquête, ce sera l'objet de notre brigade à 7h15. Et puis l'heure des ultimes négociations, à la COP26, le sommet sur le climat se termine à Glasgow. Les participants doivent maintenant se mettre d'accord sur un texte résumant leurs ambitions pour la planète.
7h10, le foot maintenant, le retour des Bleus pour la qualification mondiale, c'est donc demain.
Match face au Kazakhstan qui se jouera non pas au Stade de France mais au Parc des Princes à cause de travaux sur la ligne de RER. Le Parc des Princes, l'ancienne maison des Bleus jusqu'en 98, et cela faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas disputé deux rencontres dans le stade désormais réservé au PSG, Philippe Sanfourche.
Oui, voilà plus de 8 ans que les Bleus n'ont plus foulé cette pelouse du stade parisien. Un beau souvenir face à l'Australie, 6-0, et pourtant ce sont souvent les mauvais souvenirs qui remontent à la surface quand on associe le Parc des Princes et la sélection France-Bulgarie 93. Jules Koundé, 23 ans aujourd'hui même, n'était pourtant pas né.
On m'en a parlé bien évidemment, mais je pense que c'est passé, ce sont des choses effectivement historiques, mais ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué et on espère faire honneur au maillot et bien évidemment gagner ces matchs pour essayer de laisser ça dans le passé.
Matteo Guendouzi, 22 ans, lui voit surtout en bon joueur de l'OM le Parc des Princes comme le stade de l'ennemi.
C'est vrai que j'aurais préféré jouer au Stade de France. Le Parc des Princes, c'est le stade du PSG et aujourd'hui on y est avec l'équipe de France et j'espère en tout cas que toutes les personnes qui viendront au stade seront de tout cœur avec nous et nous pousseront pour nous qualifier pour la Coupe du Monde.
Un Parc des Princes moins vaste que le Stade de France, 47 000 spectateurs contre 80 000, mais qui sera plein demain soir pour la possible qualification des Bleus.
Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL. La France sera donc automatiquement qualifiée en cas de victoire. Et vous entendiez Matteo Guendouzi en conférence de presse, le milieu de terrain de l'OM qui pourrait disputer demain ses premières minutes sur la pelouse en sélection nationale, a également accordé un entretien exclusif à Philippe Sanfourche pour RTL et M6. Rendez-vous dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Demergue et Giovanni Castaldi. Et puis France-Kazakhstan, ce sera évidemment à suivre demain soir sur RTL et sur M6. En attendant, le Brésil lui est déjà qualifié pour le Mondial en battant la Colombie 1-0. Il rejoint l'Allemagne, le Danemark et le Qatar, pays hôte.
On termine ce journal avec les courses qui ont lieu à Vincennes ce soir.
Avec un départ à 20h15, les pronostics de Dominique Cordier, le 13, le 12, le 10, le 6, le 11, le 5, le 3. La dernière minute, c'est le 10, Gogo des Malbéraux.
Le journal de 7h nous était proposé. J'ai entendu un cheval là.
Il ruine,
oui. C'est Gogo, oui.
Voilà.
C'est bien. Bon, très bien. Alors, le journal de 7h nous était proposé par Hortense Crépin et son cheval Gogo. Il est 7h12, la politique avec vous Olivier Bosse, bonjour.
Et l'Europe des gogos, bonjour Yves, bonjour à tous.
La crise des migrants aux frontières de la Biélorussie et de la Pologne est devenue en fait un sujet politique majeur.
Oui, parce que nous le voyons bien, l'immigration est désormais une arme massive de déstabilisation. Une arme utilisée contre une Europe, effectivement, faible sur le sujet et très vite divisée. Une arme qui peut aussi influencer des campagnes électorales nationales, comme notre élection présidentielle. Au sud, la Turquie use de cette arme, joue ce chantage avec des millions de migrants. Et à l'Est, la Biélorussie pousse désormais encore plus loin le cynisme. Elle importe quelques dizaines de milliers de migrants pour les presser au début de l'hiver, le long des frontières de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie. Les images télé depuis le début de la semaine suffisent à créer, à alimenter de toutes pièces une crise diplomatique et politique.
Alors, quelle est l'ampleur exacte de cette crise ?
Alors, au niveau européen, cela souligne comment, sur ces questions d'immigration, l'Europe reste fragile. À chaque crise, les réponses sont lentes, inadaptées ou inefficaces. Les ministres des Affaires étrangères se réuniront lundi pour envisager des sanctions contre les proches du dictateur biélorusse et pour envisager des sanctions contre ces compagnies aériennes qui prêtent main forte pour amener des migrants, principalement du Moyen-Orient. L'Europe, pour l'instant, n'arrive pas à faire plus car il y a une crise dans la crise. La Pologne ne demande pas d'aide européenne pour faire face à ces migrants. Elle est en conflit avec l'Union sur la question du respect de l'état de droit dans son propre pays. Tout se mélange donc et rien ne se passe. Il n'est pas question non plus pour l'instant pour l'Europe de se mettre à financer la construction de murs comme le demandent notamment les Polonais.
Bon, on a compris que l'imbroglio est total. Jusqu'où peut aller cette crise ?
Elle peut encore s'aggraver. Loukachenko, le dictateur biélorusse, menace de couper les approvisionnements en gaz de l'Europe. Mmh. Pour l'instant, c'est une menace qui n'est pas prise au sérieux. Vladimir Poutine le soutient encore parce que le dirigeant russe sait très bien que toute cette crise peut déstabiliser l'Europe. Ces jeux diplomatiques pervers ont un terrain favorable. L'immigration est un sujet d'angoisse. En France, il prend une résonance toute particulière dans notre pré-campagne présidentielle. Avec les images de la frontière biélorusse, le soir, à la télé, Éric Zemmour n'a pas besoin d'en rajouter. Les élus Rassemblement National, Jordan Bardella, Julien Odoul, eux, ont saisi l'occasion de revenir sur ce thème de prédilection de Marine Le Pen, l'immigration, abandonnée trop tôt dans son entreprise de dédiabolisation. Cette crise est donc à surveiller, elle fait partie de ces événements qui peuvent avoir un impact indirect et important sur une campagne et donc sur des choix le jour du vote.
Olivier Bost, à 7h40, je vous le rappelle, Benjamin Sportou, je reçois aujourd'hui l'historien et spécialiste du Moyen-Âge Florian Mazel. Il publie La nouvelle histoire du Moyen-Âge aux éditions du Seuil. Ce sera l'occasion d'une discussion tout à fait passionnante avec de nombreux parallèles entre cette époque et les événements que nous vivons actuellement. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes.
Yves Calvi, RTL Matin.
Le secteur du vélo embauche. 50 000 emplois devraient être créés d'ici 2 ou 3 ans et 100 000 d'ici une dizaine d'années. Quels sont les métiers concernés? Où va-t-on trouver cette main-d'œuvre? La brigade RTL va tout nous expliquer ce matin. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Comment arrive-t-on à ces chiffres impressionnants?
Parce que le secteur est en plein boom. Hein, plus 10% d'utilisation en un an, plus 30% pour les constructions de pistes cyclables ou points de stationnement. Si les objectifs du plan vélo sont respectés, 3% de déplacement aujourd'hui, 9% en 2024, les besoins de main-d'œuvre, c'est simple, vont au moins tripler dans les années qui viennent.
Alors, soyons précis, le vélo, c'est combien d'emplois aujourd'hui?
Un peu plus de 13 000 emplois directs. On parle là de la production, de la vente, plus de 5 000 postes, mais aussi de la construction des infrastructures, les loueurs de vélos ou les associations. Si on regarde plus large avec les retombées touristiques, quand vous faites une randonnée à vélo de 3 jours, vous dormez à l'hôtel. Et si on compte aussi les livreurs, les facteurs à vélo, on arrive à presque 80 000 emplois.
Et quels sont les métiers les plus demandés?
Tous. Ingénieurs, développeurs, mécaniciens, assembleurs, soudeurs, techniciens. Sur emploivélo.com, le nombre d'offres est exponentiel, explique son fondateur. Cyclable, 60 boutiques de vente dans toute la France, prévoit d'embaucher 30 personnes. Arcade Cycle en Vendée, qui assemble des vélos, a besoin d'une cinquantaine de personnes d'ici 2 ans, sauf que toutes ces entreprises ont du mal à embaucher.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas assez de personnes qualifiées, en fait. Les marques créent donc leur propre école de formation ou s'associent avec des instituts pour trouver de la main-d'œuvre, comme Decathlon, qui va former 500 mécaniciens avec l'association de formation pour adultes, ou Moustache, qui s'associe à l'IUMM. À l'Institut National du Cycle, le nombre de stagiaires vélo a été multiplié par 2 en 2 ans et ça ne suffit pas. Et comme les métiers deviennent de plus en plus techniques, avec le succès des vélos électriques ou alors des vélos cargo, eh bien la solution passe peut-être aussi par la reconversion.
Que voulez-vous dire par là?
Mais embaucher en fait des techniciens venus de la filière auto ou la filière aéronautique, plutôt en déclin, ce serait là un beau débouché. Vous le voyez ce matin, que du positif grâce au secteur du vélo.
Merci beaucoup Sophie Orange. Dans un instant RTL événement, nous repartons à Emerin, la petite ville du Nord qui vote comme la France à moins de 150 jours de l'élection présidentielle. William Galibert est retourné sur place pour prendre le pouls des électeurs et comprendre leurs attentes, leurs envies en matière de politique. Si envie il y a, bien entendu. Il est 7h17.
Passez une bonne journée sur RTL. RTL, revivre ensemble. RTL événement.
Ah, il est 7h19. Alors vous vous souvenez peut-être, il y a un mois, nous partions à la rencontre des habitants d'Emerin, petite commune de la banlieue de Lille, qui a la particularité d'avoir en 2017 voté exactement, je dis bien exactement, comme le reste du pays, pour la présidentielle. Nous avions fait connaissance avec la formidable Patricia, ancienne gérante de Bar Tabac, et ses bergers allemands.
Viens Doudou, c'est mon copain. Je dis c'est mon copain.
Ou encore avec Jeff, le restaurateur.
Quand on voit ce qu'on donne à un salarié et qu'on en donne la moitié à l'État, il faut faire quelque chose.
Alors avec eux et puis avec d'autres, nous avions parlé coût du travail, immigration, fermeté, et puis nous avions promis d'y retourner régulièrement. Eh bien, promesse tenue. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
Quoi de neuf à Emerin?
C'est presque l'hiver, une douce odeur de feu de cheminée enveloppe les rues. Bon, lors de ma première visite, on m'avait aussi beaucoup parlé de la fermeture des commerces de la commune.
Et ici, il n'y a rien, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien.
Pour le dire clairement, on était un peu au bord de la déprime. Alors cette fois, je suis allé chercher un peu d'espoir à la sortie de l'école primaire. Voilà Maxime, ingénieur à l'hôpital de Lille. Il est venu à vélo pour chercher sa petite dernière. Question bête, c'est vraiment si dur que ça la vie ici?
Nous, on y vit bien, puisque ça fait 14 ans, c'est la deuxième maison qu'on achète à Embrun. Le village est agréable, il y a une vie associative, il y a des clubs sportifs, il y a une école qui est très sympa. Il y a mon fils qui a pratiqué le foot et le tennis ici. Ma femme fait partie de l'association de parents d'élèves. On s'est complètement intégrés de par l'école avec tous les autres parents d'élèves qui sont devenus des bons amis depuis maintenant plus de 10 ans. Oui.
Et c'est quand même bien de le rappeler, c'est l'humain qui reprend le dessus. Il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de boucherie, mais il y a mieux que ça, il y a les copains, l'entraide, la solidarité. Exemple concret donné par Annabella et Jean-Philippe.
Il y a des groupes aussi sur les réseaux sociaux d'échanges d'échanges entre voisins, par exemple de vêtements, de meubles, de tout. Enfin, il y a beaucoup de solidarité.
C'est un groupe qui est sur WhatsApp et qui permet aux personnes, j'ai besoin, je dis une bêtise, hein, d'une chaise bébé pour le week-end, est-ce que vous avez ça, la mienne a cassé. Il y a possibilité d'avoir ça facilement, sans forcément parler d'argent.
Vous êtes combien sur ce groupe
Alors, 211 participants.
Et ça s'appelle comment
à ton voisin.
Bon, alors c'est très bien tout ça, William, hein, mais on est quand même un peu loin de la présidentielle, non ?
Eh bien, pas du tout. Au contraire, parce que l'entraide, la solidarité, c'est ça qui va guider le vote de ces jeunes parents, avec aussi un autre mot que j'avais pas entendu le mois dernier, écologie. On trie ses déchets, on a un potager, on fait attention. Reste à savoir qui pour incarner tout ça. Et là, à chaque fois que j'ai demandé un nom, je n'en ai eu aucun. On a tordu le nez ou juste, franchement, soupiré.
Bon, et puis vous étiez là-bas, William, mardi, le jour de l'allocution d'Emmanuel Macron.
Et j'ai eu de la chance, je l'ai regardé chez Patricia. Ah. Grand cœur, grande gueule, un œil sur le président, l'autre sur ses chiens.
La baisse d'un quart du nombre de cambriolages et de vols de...
Ah ben, il y en a eu un en face, ici, de cambriolage. La baisse, ils ont cambriolé chiens. Oh, t'arrêtes. J'ai dit non. J'ai demandé que tu sois sage. Allez.
Autre génération, autre préoccupation. Patricia, elle n'a toujours pas trouvé le remplaçant de son Nicolas Sarkozy adoré. Pas emballé par le président sortant, mais pas plus par ses concurrents.
Bon, je trouve qu'il est mignon, attention, hein, je ne vais pas dire. Il a de la classe, mais je trouve qu'il est jeune. Il est un peu prétentieux quand même. Hein.
Mais effectivement, il faut voir si les autres sont mieux. Quoi.
Enfin... on le sait point. Je vous l'ai dit, Zemmour, moi, il me fait peur. Il a une tête de corbeau. Il me fait peur. Xavier Bertrand, je l'aime bien, mais je ne le vois pas avec l'étoffe de président. Le problème, c'est qu'on nous fait des promesses et puis au pays des promesses, on meurt de faim.
Mon ressenti, Yves, après ce deuxième passage par Embrun, à 5 mois du vote, l'intérêt monte, c'est clair, je l'ai clairement vu, mais l'enthousiasme, lui, n'a toujours pas décollé.
RTL événement, merci beaucoup William Galibert. On retournera évidemment avec vous à Embrun dans les prochaines semaines pour continuer à prendre le pouls des Français en vue de la présidentielle.
RTL Matin, Yves Calvi.
Nous retrouvons avec grand plaisir Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est l'heure de la pépite musicale quotidienne.
Alors on va se remettre en tête cette chanson. Mourir sur scène, texte à l'origine pensé pour Johnny Hallyday et Michel Sardou. Ouais. Ça n'a pas abouti. Hein. Il a été retravaillé pour Dalida et les paroles sont devenues cette profession de foi troublante. Un texte dans lequel elle tutoie la mort. La chanson est apparue dans son album Les Petits Mots en 1983, puis en face B d'un 45 tours. Et c'est aussi sur la face B d'un vinyle de la chanteuse galloise Shirley Bassey qu'on trouve une version anglaise de Mourir sur scène. La chanson devient moins dramatique, plus solaire. Pour tout dire, je la préfère à l'original. Elle a pour titre Né pour chanter, Born to Sing, c'est notre pépite du jour, Mourir sur scène par Shirley Bassey. toujours Las Vegas, c'est une très grosse production, mais c'est réussi. Shirley Bassey, on le rappelle, la seule interprète à avoir chanté trois génériques de James Bond. Elle a donc aussi chanté Dalida en 1986, peu de temps avant la disparition de la diva. Cet enregistrement n'est jamais ressorti depuis, ah oui, mais elle l'a chanté sur scène en 1995, cette chanson.
Ah bah Shirley Bassey, on ne l'arrête jamais, c'est absolument hallucinant. Et bah voilà, on se dit à lundi, Anthony.
À lundi.
Rendez-vous est pris.
Elle a 86 ans et elle vit à Monaco, Louis Badin.
Oui, bon, on vient de voir ça.
Bah voilà, vous acceptez de faire la météo dans un instant ?
Ouais bah, après Shirley Bassey, hein.
Ah bah, allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Les grosses têtes nous donnent rendez-vous cet après-midi de 15h30 à 18h pour rire ensemble avec les meilleurs moments de l'émission, comme cette scène de jalousie signée Isabelle Mergaux.
Je rêve ma vie, là. Je viens de vous voir vous lever pour arranger le micro d'Ariel Dombal, alors que d'habitude, si c'était moi, vous faites oh, Isabelle, le micro. Et là,
en tout cas, moi, j'ai été très honorée que vous touchiez le micro et qu'il s'approche de ma bouche. Ça me fait plaisir.
D'ailleurs, le...
Non, mais écoutez, c'est... Ariel, non. C'est ma princesse.
Voilà. Ah, mais ça me fait plaisir. Écoutez, je le prends comme un hommage.
Oh, moi c'est... aussi, hein, je suis sa princesse, si je veux. Hein. Ouf. Seulement, je veux pas.
Voyez l'ambiance, finalement.
Non, je vois. Mais alors, c'est tout le temps comme ça entre les deux, j'ai l'impression.
Ah, mais vous allez voir, vous allez prendre vous aussi. Si je suis un peu trop gentil avec vous, d'accord. Alors là, bon. Si je dis par exemple que vous êtes magnifique.
Oh, ben bon. Ça, personne n'y croira. Il est con.
Mon Dieu, 15h30, 18h, les meilleurs moments des grosses têtes sur RTL avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Louis Baudin, on a une fin de semaine qui est bien fraîche. Hein.
Exactement, fraîche, avec encore des brouillards givrants ce matin dans toute la moitié nord, où effectivement les gelées sont très fréquentes, les brouillards également. Dans la moitié sud, on a aussi des brouillards cette fois-ci, mais là ça ne gèle pas, donc ces brouillards ne sont pas givrants, notamment dans le sud-ouest et puis près de la Méditerranée. Toujours cette activité nuageuse et pluvieuse. Cet après-midi, encore quelques nuages, quelques pluies sur le littoral méditerranéen et sur la Corse. Dans les autres région. Normalement, les brouillards devraient se lever, mais enfin, comme hier, il en persistera ici ou là, notamment dans la vallée de la Saône ou encore plaine d'Alsace. Et puis la nouveauté, c'est au nord de la Loire, l'arrivée d'un ciel plus nuageux cet après-midi. C'est une nouvelle perturbation qui arrive petit à petit avec des nuages et peut-être même quelques pluies près de la Manche. Côté température, après ces gelées matinales, eh bien, on ne dépassera pas 5 à 8 degrés cet après-midi. Ah oui, c'est froid, hein. De la région Rhône-Alpes au nord-est, 11 à 15 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Ça remonte un peu par rapport à hier et 15 à 19 degrés même dans la moitié sud.
Le froid s'installe. Merci à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 12 novembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et gros plan ce matin sur un sport pratiqué dans toute l'Europe, la triche sur les notes de frais. La fraude s'élève en moyenne à 115 euros par an. La plupart des salariés estiment que ces petits arrangements sont acceptables, une sorte de compensation pour les heures sup pas toujours payées. Mais à l'arrivée, ça peut coûter jusqu'à 13 000 euros par an au PME, Franck Hanson.
Et les dépenses souvent le plus gonflées restent les frais de bouche. Plus d'un salarié sur trois a déjà déclaré des repas privés en note professionnelle. Ils sont quasiment autant pour arrondir des frais kilométriques. Pas étonnant pour Olivier, employé dans l'informatique.
Ça m'étonne que moyennement, effectivement, comme un peu partout finalement. On peut prendre un petit peu tout, ça peut être des notes de frais, ça peut être déclaration d'impôts. Malheureusement, ouais, on est toujours tenté de, même sur des dépenses à 10 euros ou autre, je vais être amené effectivement à le déclarer, j'essaie d'être assez juste.
Des petits arrangements qui concernent également des achats de fournitures ou frais de téléphone, mais les entreprises sont de plus en plus strictes.
On est limité à 20 euros. Par repas, hors boisson.
Donc on peut pas frauder, quoi. On peut pas en rajouter, entre guillemets.
Non, non, on en a connu, mais c'est fini maintenant. Le débordement, c'est terminé.
Ces dépassements, jugés souvent légitimes au vu de l'investissement dans la société, par exemple, peuvent aussi à la longue coûter cher aux PME. des abus toujours risqués, confirment ces Lillois dans le marketing.
Pour les taxis, les frais de restauration, si c'est pour ajouter 20 balles et prendre le risque de perdre mon travail, je vois pas où est l'intérêt.
J'en connais qui l'ont fait et ils sont plus là aujourd'hui pour en parler, vaut mieux éviter, voilà.
Pour une ramette de papier ou quelques stylos, les entreprises restent globalement plutôt indulgentes, mais pas pour les additions astronomiques.
Reportage RTL de Franck Hanson à Lille.
La jeune fille de 17 ans disparue pendant 24 heures en Mayenne va de nouveau être entendue ce matin par les enquêteurs.
Ouais, c'est ce qu'affirment nos confrères du Parisien. Lisa a expliqué qu'elle avait échappé à deux ravisseurs qui l'auraient enlevée dans une camionnette verte, mais aucune trace de ce véhicule et toujours beaucoup de zones d'ombre hein, dans son récit. Les gendarmes ont déjà abandonné le ratissage de la forêt de Bellebranche et ils ont levé leur dispositif de surveillance. Dans l'affaire du PSG féminin, la garde à vue d'Aminata Diallo et de son ami a été levée hier. Aucune charge n'a été retenue contre eux à ce stade, Guillaume Chiez.
Oui, les enquêteurs n'ont pas trouvé à ce stade d'éléments pouvant incriminer Aminata Diallo. La joueuse est donc ressortie libre de ses 36 heures passées dans les bureaux de la PJ de Versailles. Les policiers ont pu procéder à différentes vérifications, notamment sur son téléphone, mais aussi sur des objets saisis à son domicile. En garde à vue, Aminata Diallo a d'abord invoqué son droit au silence. Elle a même refusé l'aide d'un avocat. Puis elle s'est défendue et a nié toute implication dans l'agression de sa coéquipière. La garde à vue de son amie, qui avait également démarré mercredi matin, a elle aussi été levée. Pour autant, l'enquête se poursuit et devrait être confiée à un juge d'instruction. Rappelons que dans cette affaire, les deux agresseurs de Keira Amraoui n'ont pour le moment pas été interpellés par les policiers.
Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. Un contrôle parental par défaut sur les smartphones, les téléphones et les ordinateurs, c'est la proposition de loi que vient de déposer un député du Bas-Rhin. Car actuellement, seuls 40% des enfants et des ados sont protégés des contenus violents ou pornographiques. Ce député, Bruno Studen, était l'invité des petits matins d'RTL.
C'est-à-dire la première fois que vous installerez votre appareil, on vous demandera, oui ou non, est-ce que vous souhaitez protéger vos enfants des contenus auxquels ils peuvent avoir accès sur Internet. Ben voilà, je ne pense pas que les gens soient prêts à mettre un magazine pornographique sur la table basse du salon. Lorsque vous mettez aujourd'hui un smartphone dans la main d'un enfant, très souvent la première rencontre avec la pornographie qui a lieu en moyenne vers l'âge de 10 ans, hein, elle a lieu parce que l'appareil n'est pas forcément équipé d'un dispositif de contrôle parental. C'est de ça dont il s'agit.
Bruno Studen avec Jérôme Florin. Le salon du Made in France s'est ouvert à la porte de Versailles à Paris et le premier label Made in France a été présenté hier. Une sorte de bonnet phrygien stylisé en bleu, blanc, rouge bien sûr. RTL a fait les calculs, hein, cela dit, les vêtements fabriqués chez nous sont 3 fois plus chers. On vous expliquera pourquoi dans le journal de 8h.
Le ton monte un peu plus hein, chaque jour entre le Bélarus et l'Union Européenne.
Des milliers de migrants sont toujours massés à la frontière avec la Pologne et les témoignages recueillis par RTL le confirment. C'est bien le Bélarus qui organise leur venue. Le président Loukachenko a prévenu hier que son pays répondra à toute nouvelle sanction. Il menace notamment de couper un gazoduc. Faut-il s'inquiéter ? Réponse de Thomas Pellerin-Carlin, spécialiste de l'énergie à l'Institut de l'Or.
Il y a à peu près 10% des importations de gaz de l'Union européenne qui passent par ce gazoduc. Il a un rôle important, mais sans être majeur et indispensable.
Et est-ce que rien que la menace de dire ça, est-ce que ça peut jouer sur le cours du gaz ?
Donc effectivement, des déclarations de ce type-là ne peuvent être que négatives, augmenter l'incertitude sur le marché et du coup de jouer un rôle dans une hausse des prix du gaz en Europe.
Thomas Pellerin, Carlin, joint pour RTL par Bénédicte Tassard. La COP26 s'achève aujourd'hui à Glasgow, du moins officiellement, et le résultat final s'annonce décevant. On est encore bien loin de l'objectif affiché d'un réchauffement climatique limité à 1,5 degré d'ici à 2100. Pour le climatologue Jean Jouzel, les engagements pris ne sont clairement pas à la hauteur.
On n'avance pas assez vite, c'est clair, et c'est vrai que c'est un peu lassant. Je veux dire, à un moment, eh bien, on a quand même eu 2 ans là, pour prendre les bonnes mesures. Les États-Unis sont revenus dans le jeu. On avait des conditions vraiment très favorables, mais ce n'est pas pour le moment une image globale positive des résultats de cette conférence climat.
Jean Jouzel avec Marie Billon. Et je ne peux pas vous laisser sans mentionner ce record qui sera homologué demain à Nantes, le plus grand dahlia du monde. Il mesure 9,35 m. C'est pas une blague, 9,35 m je vous jure. Il avait gelé à l'automne dernier mais il est reparti à fond au printemps et il a parfois poussé jusqu'à 6 à 7 cm par jour. Je vous invite à aller voir les photos dans Presse Océan, c'est vraiment impressionnant. Il y a un grand échafaudage pour le tenir debout et des bâches pour le protéger parce qu'il commence à faire frais. Le précédent record tenait depuis 91, détenu déjà par un Nantais. Et figurez-vous que le dahlia d'aujourd'hui est en quelque sorte un enfant du dahlia d'hier, comme quoi les dahlias nantais ont de bons gènes.
Bien, alors nous on se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et je vous emmènerai au Soudan chez des producteurs de gomme arabique.
Avec grand plaisir. Rendez-vous est pris. À tout à l'heure Isabelle Choquet. Dans un instant, l'Anglais Co avec François Langlais, direction la Chine où le président vient de réussir un véritable coup de maître. Bref, il s'impose plus que jamais comme le maître du pays.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'Angleco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors François, Xi Jinping, le président chinois, accroît encore son emprise sur l'Empire du Milieu, dites-moi.
Oui, les quelques 400 membres du comité central ont voté hier l'un de ces textes de propagande grotesques dont le Parti communiste chinois le secret. Un texte où la période actuelle est décrite comme, je cite, l'épopée la plus magnifique de l'histoire de la nation chinoise depuis des millénaires, rien que ça. Et où Xi Jinping est portraituré comme un astre dont la pensée est jugée, je cite encore, la quintessence de la culture et de l'âme chinoise. Bon, inutile de dire que la pensée principale de celui qu'on surnommait naguère Winnie l'ourson, elle est assez sommaire. Elle se résume à une idée, se maintenir au pouvoir avec un troisième mandat qui débuterait en 2022, comme Mao, comme Deng Xiaoping.
Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans la tête de cet homme de 68 ans, donc Winnie l'ourson, qui va donc, semble-t-il, régner encore des années?
Il y a deux lignes de force. La première est toute simple, c'est réinstaller la Chine à la première place mondiale, sur tous les plans, économique, militaire, politique, technologique. Vous savez, pour les Chinois, ce sont les Occidentaux qui les ont dépossédés de ce privilège, au milieu du 19e siècle, par la ruse, avec la guerre de l'opium, avec les concessions étrangères en Chine. Alors que la Chine avait été la première économie du monde pendant plusieurs siècles. Si, considère qu'il est temps de renouer avec ce passé prestigieux, grâce au déclin de l'Occident et en particulier au déclin des États-Unis, que l'épidémie et les difficultés à la contrer ont révélé.
Alors ça veut dire très simplement qu'il vise la conquête du monde ?
Non, pas forcément. Le modèle chinois n'est pas expansionniste. Les dirigeants veulent tout simplement ne pas être gênés par quiconque dans la conduite de leurs affaires, et notamment pas par les États-Unis. La mer de Chine et puis le Pacifique Sud, c'est pour eux une mer intérieure, leur appartenant, parce que c'est par là que transitent tous leurs approvisionnements. Ils veulent le contrôle exclusif de cette zone, au besoin en restreignant la liberté de circulation maritime à leur profit. Et puis ils veulent bien sûr récupérer Taïwan, hein, c'est l'île chinoise nationaliste, aujourd'hui sous protection américaine. Ils veulent en fait parachever la réunification du pays. D'ailleurs, Taïwan sera annexé un jour ou l'autre, au besoin par la force, ça me semble inévitable.
Et sur le plan intérieur, qu'est-ce que ça donne ?
Le durcissement politique de Xi Jinping et de son équipe, avec la campagne contre ce qu'ils appellent la pollution spirituelle, ça s'explique par une phase délicate de l'économie, et c'est la seconde ligne de force. L'hypercroissance, c'est fini. Après ces 30 glorieuses qui sont révolues, la Chine retrouve un régime plus calme. La classe moyenne ne voit plus son sort s'améliorer alors que d'énormes inégalités se sont développées dans le pays. D'où l'utilité politique de taper un bon coup sur la tête des milliardaires. C'est ce qui a été fait avec les grandes fortunes de l'Internet. Et d'où l'utilité aussi de provoquer la faillite de groupes immobiliers pour les punir, en quelque sorte de s'enrichir sur le dos du Chinois moyen. Contrairement à ce qu'on peut penser à l'Ouest, les dictateurs aussi sont attentifs à l'opinion publique. Surtout en Chine, où la crainte du soulèvement est toujours présente. Pour les dirigeants de Pékin, le destin pitoyable des communistes soviétiques, qui ont été victimes de leur incompétence et renversés il y a 30 ans par un peuple frustré, c'est le cauchemar absolu. Ils feront tout pour l'éviter.
Eh bien, les choses sont parfaitement claires. Merci beaucoup François Langlais. Que votre voix se repose pendant ce doux week-end. Et nous vous retrouverons dès lundi avec félicité.
À lundi.
7h42, bonjour Benjamin Sportouche. On vous retrouve dans un instant avec votre invité Florian Mazel, historien, et nous allons comparer c'est un historien médiéviste, et nous allons comparer notre vie aujourd'hui avec l'histoire du Moyen-Âge.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin l'historien Florian Mazel.
Bonjour Florian Mazel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors, je le disais, vous êtes un historien spécialiste du Moyen-Âge et vous avez piloté une équipe d'une soixantaine de vos collègues pour revisiter cette très longue époque de notre histoire. Vous en avez tiré un livre, Une nouvelle histoire du Moyen-Âge aux éditions du Seuil. Je devrais plutôt dire une Bible, Florian Mazel, hein, puisque c'est près de 1000 pages. 1000 pages pour 1000 ans et il n'y avait pas une telle somme depuis 1980.
Oui, en langue française, en tous les cas, il n'y avait pas eu de synthèse comme ça générale qui revisitait l'ensemble de l'histoire médiévale et puis à l'échelle de l'Europe et dans sa profondeur chronologique, parce que voilà, c'est 1000 ans, donc c'est très long.
Aujourd'hui, on entend beaucoup, Florian Mazel, les mots d'ensauvagement, d'obscurantisme, de violence, d'époque moyenâgeuse.
Bah, y a du vrai au sens où c'est une société violente, et c'est une société brutale, et c'est une société où la violence est de nouveau légitime. De nouveau, il faut voir que ceux qui sont à la tête de cette société, dans le monde laïque, pour eux, la guerre est fondamentale dans leur identité. C'est pas uniquement un débordement, un accident, c'est fondamental. Ils vivent de la guerre, ils font la chasse, ils font des tournois, ils vont à la guerre régulièrement tous les ans. Ils se réjouissent quand on arrive au mois de mai, comme le disent plein de troubadours, parce que le mois de mai, c'est le moment où on va pouvoir repartir à la guerre.
Mais justement, hein, ça reste une période faite de guerre et de pandémie, notamment la grande peste de 1348 à 1351. Elle fait 25 millions de victimes, soit 30 à 50% des Européens à l'époque. C'est énorme. Alors, ce qui nous fait bien sûr penser à la période que nous traversons aujourd'hui. Quelles sont les similitudes, Florent Mazel ?
Alors, j'insisterai d'abord sur une différence que vous avez soulignée vous-même, c'est-à-dire qu'elle était extrêmement plus mortifère, cette épidémie, que ne l'est le Covid. Hein. C'est-à-dire que là, on atteint des seuils de mortalité qui sont même difficiles à imaginer pour nous. Il y a des villages, un village en Bourgogne, on a conservé des registres paroissiaux, c'est les deux tiers de la population qui, en quelques mois, disparaissent. Donc, c'est un choc qu'on a du mal à imaginer. Les similitudes, c'est que c'est le moment où apparaissent certaines formes de lutte contre la diffusion de la pandémie qu'on connaît aujourd'hui, hein, de manière le confinement. Les pratiques de confinement, elles apparaissent dans une ville qui aujourd'hui s'appelle Dubrovnik, mais qui s'appelait Raguse en 1377. Et puis ensuite, par exemple, la pratique aussi de l'isolement et de la quarantaine, elle apparaît à Venise au XVe siècle. Et puis vous avez aussi des institutions, des conseils sanitaires, les premiers conseils sanitaires qui sont mis en place dans les villes.
Alors le médiévisme, justement, hein, la transition est tout trouvée, fait fureur dans la série à succès Game of Thrones, par exemple. Comment vous l'expliquez ?
Alors, il y a un imaginaire médiéval qui est formidable quand même. La littérature médiévale a produit, que ce soit les romans arthuriens, la légende arthurienne, ou que ce soit dans le monde anglophone aussi, les sagas islandaises, ou les chansons de geste. Enfin, tout cet imaginaire-là, il est très puissant. Il y a l'imaginaire des croisades aussi, plus chrétien, mais qui est aussi très présent encore aujourd'hui. Donc, il y a déjà une matrice imaginaire qui, à mon avis, parle beaucoup aux gens.
Vous-même, vous avez regardé Game of Thrones ?
Alors, j'en ai regardé certains épisodes. Je dois avouer, moi, je ne suis pas dans la longue durée. Mais j'ai un peu de mal à tenir les séries. Mais en revanche, je regarde Kaamelott. Voilà, c'est la dimension parodique qui par certains côtés, est aussi très médiévale. Hein. C'est l'époque des fabliaux. C'est l'époque où il y a énormément de moqueries aussi au Moyen-Âge. Une littérature de la moquerie qui existe.
L'humour de Kaamelott, ça fait écho à cet humour de cette époque-là.
Alors, il y a des formes d'ironie qui n'étaient pas médiévales. Mais en revanche, il y a des formes de dérision, oui, qui sont médiévales.
Alors, dans cette somme, hein, vous battez en brèche beaucoup d'idées reçues sur le Moyen-Âge, de clichés, de choses apprises dans nos livres d'école. Et bien sûr qu'on a une image très sombre de cette époque, Florian Mazel. Vous nous dites, vous, que c'est largement exagéré. Par exemple, que ce n'était pas forcément une période de sorcellerie, de chasse aux femmes sorcières.
Alors oui, non, là-dessus, effectivement, il y a un chapitre qui dément complètement cette vision des choses, qui est en fait issue de l'époque postérieure, les 16e, 17e, 18e siècle. En fait, au Moyen-Âge, d'ailleurs, les principales personnes qui sont accusées de sorcellerie sont des hommes, déjà, et pas des femmes. Mm-hmm. Et ensuite, c'est très tardif, c'est vraiment 14e, 15e siècle, donc c'est les derniers siècles du Moyen-Âge. Et c'est qu'à ce moment-là que la sorcellerie est criminalisée, puisqu'en fait, avant, il y a toute une série de pratiques de nature superstitieuse, qui sont déjà critiquées par l'Église, mais qui ne font pas l'objet d'une répression judiciaire, comme ça sera le cas après.
C'est l'avènement de l'amour courtois. C'est quoi l'amour courtois, Florian Mazel ? Est-ce que c'est les troubadours qui chantaient sous les fenêtres, ou ça aussi c'est un cliché ?
Alors ça aussi c'est un cliché, mais en même temps c'est un cliché qui vient du Moyen-Âge lui-même, puisque il y a des textes littéraires, en particulier un imaginaire littéraire, qui au Moyen-Âge construit cet imaginaire courtois, de l'amour courtois, et en particulier de cette relation homme-femme, où c'est un peu la femme qui est aux manettes, si on veut, c'est-à-dire en tout cas, c'est autour de la femme que tourne la relation et c'est la femme qui est présentée comme l'éducatrice de l'homme, notamment en amour. Mmh. Donc, il y a un fondement qui est vraiment médiéval.
Alors, c'est du 5e au 15e siècle, hein, le Moyen-Âge. Vous dites aussi qu'on lui doit l'institution du mariage par consentement mutuel. Ça veut dire que la femme trouve une place ?
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'Église institue le mariage en sacrement. C'est-à-dire, on fait un sacrement de l'Église, le 7e, le dernier sacrement de l'Église catholique. Et à ce titre-là, elle va désormais régenter l'organisation du mariage, ce que ça signifie. Il y a une rupture, et cette rupture, elle est fondée sur l'idée qu'il doit y avoir un double consentement, consentement de l'homme et de la femme, prononcé publiquement, et c'est ce double consentement qui fait le mariage, et pas, par exemple, l'intervention d'un prêtre.
Et puis c'est l'Église, vous dites, qui vient structurer la société, c'est quand même assez nouveau, ça.
Ce qu'il faut voir, effectivement, le Moyen-Âge se caractérise essentiellement par le christianisme comme religion, et ça, c'est ancien, pour le coup. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui se convertissent au christianisme progressivement, entre la fin de l'Antiquité et le Moyen-Âge. Mais en revanche, il y a une phase effectivement au Moyen-Âge centrale, entre 11e, 12e siècle, où l'Église prend véritablement, on pourrait dire, la main sur l'ensemble de l'organisation sociale. Et à ce moment-là, va effectivement modeler toute une série de comportements, de pratiques, à commencer par exemple voilà, par les relations de mariage, les relations de couple, la question de l'éducation des enfants, mais aussi des questions économiques. Mm-hmm. Hein, par exemple, elle va aussi dire ce qui est autorisé ou pas autorisé dans les échanges et les transactions économiques.
Mmh. Alors face aux églises, aux cathédrales qui vont se construire, il y a les châteaux. Alors bien évidemment, on a cette image de ces châteaux qui jalonnent encore la France. Mais vous dites que tout ne s'organisait pas autour de ces immenses bâtisses, contrairement à ce qu'on a pu croire.
Oui, alors c'est vrai que les châteaux, ils pullulent un petit peu en Europe à partir justement alors des 10e, 11e, 12e siècle. On a longtemps cru que l'habitat, oui, notamment les villages, s'étaient constitués, regroupés autour des châteaux, donc de ces forteresses, voire même sous la contrainte de des seigneurs qui y vivaient. Et aujourd'hui, on est assez largement revenu de cette idée, c'est-à-dire que pour la plupart de nos villages, il semble bien que ce soit d'abord plus anciennement et autour de l'église et du cimetière, donc du lieu où se réunissent les vivants pour célébrer Dieu et du lieu où on enterre les morts, que les habitats villageois se soient pour la plupart constitué.
Une très forte inégalité.
C'est une société fondamentalement inégalitaire, mais qui ne le vit pas mal parce que c'est légitime. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours aussi bien du côté des puissants, des rois, des seigneurs, que de l'Église qui légitime cette inégalité, ces hiérarchies, comme la conséquence en fait du mal dans le monde, enfin du péché dans le monde, et que pour limiter en quelque sorte le mal et le péché, il faut qu'il y ait des hiérarchies, il faut qu'il y en ait qui commandent, qu'il y a des fonctions aussi. Il y a des gens qui doivent protéger, d'autres qui doivent travailler, d'autres qui doivent prier, par exemple, pour reprendre la grande division sociale un petit peu qui domine à la fin du Moyen Âge. Donc oui, ces inégalités, elles sont très profondes, mais elles sont reconnues comme faisant partie de l'ordre du monde.
Pourquoi allez-vous jusqu'à dire le Moyen Âge, c'est le laboratoire de notre modernité ?
Parce qu'en revanche, ce qui se passe, ce qui se met en place entre 11e et 14e siècle, ce sont des premiers jalons de phénomènes de très longue durée. J'en prends un exemple très concret, par exemple, c'est la forme urbaine. La ville, telle qu'on la connaît, jusqu'au 19e siècle, c'est une ville qui apparaît au 11e, 12e siècle, c'est-à-dire une ville avec un habitat dense, homogène, distingué des campagnes environnantes par une enceinte. Les grandes enceintes qui entourent les villes, elles apparaissent au XIIe, XIIIe siècle. L'organisation en quartier, le fait qu'il y ait des métiers particuliers dans tel quartier, qui est une forme donc de topographie spécifique, que ça soit aussi le lieu de la vie universitaire, elle apparaît au XIIIe siècle. Donc là, l'université apparaît au Moyen Âge, entre XIIe et XIIIe siècle. Il y a des écoles urbaines au XIIe qui se transforment en institution universitaire au XIIIe. Et l'université telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est largement héritière de cette époque.
D'ailleurs, ça vient d'où la dénomination de Moyen-Âge, en fait ?
Eh bien, des hommes qui ont suivi le Moyen-Âge à partir du XVIe siècle et qui ont voulu l'oublier très vite. C'est-à-dire, ont voulu finalement renouer avec l'Antiquité et se sont dit, l'époque intermédiaire, là, l'âge moyen, l'âge du milieu, entre nous et les anciens, on va l'oublier. Donc en fait, c'est une appellation qui est assez ancienne, hein, qui remonte au XVIe, mais qui est très idéologique, parce qu'elle était au début pour dénoncer, pour disqualifier, pour dire, on oublie ce moment de l'histoire.
Donc vous tentez de le réhabiliter, ce Moyen-Âge ?
Alors nous tentons effectivement de lui rendre en tout cas sa dignité.
Eh bien écoutez, c'est réussi, c'est la nouvelle histoire du Moyen-Âge, c'est paru au Seuil. Ça fait 1000 pages, mais franchement, ça se picore et c'est passionnant. Et il y a de très belles illustrations aussi. Merci beaucoup, Florian.
Merci à vous.
Bonne journée à vous.
Et merci à vous deux d'avoir picoré pour nous ce matin. On retrouve cet entretien sur le site rtl.fr.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
Il est 7h55. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors nous venons d'entendre l'interview de Florian Mazel sur le Moyen-Âge. C'est une période qui vous intéresse, j'en doute pas.
Qui me passionne.
Oui.
Oh, j'étais comme ça sur l'interview, j'adore le Moyen-Âge. Hein. Oui. En plus, il y a un excellent livre qui nous invite à vivre comme au Moyen-Âge qui s'appelle « La France n'a pas dit son dernier mot » de Éric Zemmour, je crois.
Zemmour, oui. Alors en tout cas, nous sommes le 12 novembre et vous avez tenu à être présent.
Oui, enfin, je ne me suis pas battu non plus. J'ai demandé, on fait le pont ? On m'a dit non. Du coup, je suis là.
Oui.
Mais on ne fait jamais le pont avec Louis, tout ça. Nous, au mieux, c'est le petit pont de bois de Yves Duteil. François Langlet et Alba Ventura, c'est le pont de la rivière Couaille. Hein. Oh putain, c'est le Golden Gate. En tout cas, bonjour à l'équipe de permanence. On est sept. Et bonjour. Bonjour à les auditeurs de permanence. Oui. J'espère qu'ils sont au moins une petite dizaine.
Bon, écoutez, hier, c'était donc les commémorations du 11 novembre. Vous avez suivi tout
oui,
ça
bah, oui, j'ai regardé parce que j'étais un peu trop joyeux ces derniers temps. Du coup, je me suis dit, fais-toi 5 heures de morts, de blessés, de guerre et d'orphelins. Et ça m'a remis à niveau direct. Il faut avouer que c'était très émouvant. Il était très bon, Macron. Il a deux points forts. C'est les discours et la météo. Oh, un temps de rêve, hein. Et puis le discours top. Décidément, j'aime beaucoup sa nouvelle voix d'homme, hein. Et j'ai cru qu'il allait dire « C'était pas ma guerre, colonel Trotman. C'était la guerre de personne. » C'est une super voix pour les commémos, ce mélange Rambo-Barry White. C'était beau, bien écrit, puissant. Surtout quand il a dit
« Serions-nous là ? Serions-nous là sans Hubert Germain ? Serions-nous là ? Serions-nous là sans Philippe Leclerc de Haute-Cloque ? Serions-nous là ? Serions-nous là sans Philippe
Cavrivière ?
Oh non, non, ça me gêne. Non, j'avais dit de ne pas diffuser ce passage. Parce que... Ah oui, bon, bah ça va, le président m'a rendu hommage. On ne va pas en faire toute une histoire.
Non, enfin, assumez-le, c'est flatteur. Et Emmanuel Macron a aussi rendu hommage à Hubert Germain, qui a intégré aussi la résistance à 20 ans.
Oui, les jeunes de 20 ans aujourd'hui rêvent d'intégrer les Marseillais à Cancun. C'est pas pareil. Hein. Alors, Louis Baudin me confiait hors antenne, il faut reconnaître que les candidates ont quand même des gros nichons. Et moi de lui répondre, certes Louis, c'est une excellente remarque, mais pour lutter contre les nazis, je ne vois pas bien l'utilité. Ah, non, c'est fou le courage de ces jeunes hommes et jeunes femmes. On se demande tous ce qu'on aurait fait à leur place. Hein. C'est le thème de la sublime chanson de Jean-Jacques Goldman, né en 17 à Leidenstadt. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Résistance, collaboration, observation, peut-être dans un premier temps, dire « Oui, je regarde, hein, j'observe France, Allemagne, je... » J'hésite, hein, je vais choisir une équipe. Moi, je sais ce que j'aurais fait, fidèle à ma ligne de conduite morale, la lâcheté. J'aurais vendu du beurre aux Allemands. Voilà. Et Guten Tag, Caporal Müller. La motte de beurre, je vous mets 250 ou 500 grammes. Ah non, hein. Ah non, vous me gênez, Caporal, c'est la maison Cavrivière qui offre. Hein. Non, non, pas d'argent entre nous. Non, 39-45 fut une période bien difficile pour ma famille. Oui. En 45, mamie disait au revoir au beau général Helmut et tentait une fantaisie capillaire. Je ne sais pas pourquoi, elle se faisait la coupe de China de Connor. Bon, oui. Grand-tonton lui devait rendre à regret le vaste appartement au Rosenberg qu'il avait généreusement gardé pendant 4 ans.
Quelle belle famille. Oui. Alors revenons aux cérémonies. Il y a souvent un vieux général ou un vieux soldat qui les commente.
Et tu sens que ça le démange de retourner sur le terrain. Il veut remettre les crampons. L'ancien et belliqueux. Dans les maisons de retraite, je suis sûr qu'ils étaient tous devant la télé hier à gueuler « Revenez les boches ! Moi je vais vous foutre ma béquille dans le fion, vous ferez moins les malins ! Oui mais c'est fini Pépé, on a fait l'Europe ! Chalope d'Anguilla ! Pépé calme-toi ! » Alors à chaque fois qu'un de ces petits papis, je les vois, moi je me dis c'est quand même battu contre les Allemands, le gars, c'est quand même pas tant. Mmh. Vous savez que le grand-père de Michel Barnier, Auguste Barnier, a été un grand résistant.
Je ne savais pas.
On diffusait ses discours sur les ondes radio des aviateurs allemands. Oui, c'est un caillou. Un caillou d'Haïti. Et les pilotes allemands s'endormaient et ils allaient s'écraser sur une montagne. Donc merci à Auguste Barnier.
Merci Auguste Barnier. Mais oui. Parlons actu pour finir. Kamala Harris, donc vice-présidente américaine, était présente hier aux cérémonies. Elle rutilait.
Oui. Vu les températures en France, ils ont pu prendre le risque de sortir Joe Biden. Ils ne leur sortiront pas avant avril-mai, je pense. Du coup, Macron a refait copain-copain avec Kamala. Bah, c'est un pari sur l'avenir, hein, parce que le tout en camon du Massachusetts, il peut cliquer à tout moment. Il faut se mettre dans la poche la remplaçante. Vous avez vu que Macron a emmené Kamala visiter un cimetière, il lui a même filé discretos la carte de visite Rock Éclair en lui disant « Bon, je peux t'avoir un petit 20% sur les cercueils en acajou ?» Alors, allez, on finit par mon moment préféré d'hier. Hein.
Serions-nous là sans Philippe Cavrivière ?
Non, mais non, je vous dis que ça me gênait. Non, c'est mon moment préféré, c'était ça. C'est magnifique.
Moi, ça me fait... Désolé, ça m'émeut.
Mais moi, ça m'émeut. Je disais ça. Je peux faire pipi sur tout le monde, mais le chant des partisans, ça m'émeut. On est pareil là-dessus.
Du coup, ça m'ennuie de l'interrompre. L'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin, 7h55 en direct, et quand vous le voulez sur le site RTL.fr. En quelques mots, notre météo, cher Louis Bonnard.
Elle est fraîche, effectivement, avec des brouillards givrants très nombreux ce matin dans la moitié nord. Dans le sud, on a encore quelques averses près de la Méditerranée. Cet après-midi, toujours des nuages et quelques pluies entre le Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse. Dans les autres régions, le soleil devrait s'imposer, alors sauf au nord de la Loire, où arrivera une nouvelle perturbation avec des passages nuageux, voire quelques gouttes de pluie près de la Manche. Ailleurs, donc, quand même, le soleil devrait s'imposer. Les températures, 5 à 8 degrés seulement cet après-midi de la région Rhône-Alpes au nord-est, voilà prévenu, 11 à 15 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Là, c'est un petit peu mieux qu'hier et 15 à 19 dans la moitié sud.
Merci beaucoup Louis Baudin, RTL. Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors à la une, le malaise des enquêteurs en Mayenne.
Hein. La jeune fille partie courir en forêt et portée disparue pendant plus de 24 heures a-t-elle dit toute la vérité? Plusieurs incohérences dans sa version font douter aujourd'hui les gendarmes. Nous y revenons dans un instant. La Biélorussie a bien orchestré l'arrivée des migrants par charter avant de les grouper à la frontière polonaise. Des témoignages recueillis sur place par RTL confirment ces manœuvres sans scrupules. Un chiffre qui donne le sourire ce matin, le secteur du vélo va permettre de créer 50 000 emplois d'ici 3 ans, 100 000 dans les 10 prochaines années. Ça recrute beaucoup et dès maintenant. Pourquoi le Made in France coûte-t-il si cher à fabriquer? C'est l'enquête de la brigade RTL ce matin alors que s'est ouvert à Paris un salon dédié. Et puis le championnat de France de pull moche aura lieu demain à Millau dans l'Aveyron. Amateurs de mauvais goût, soyez prêts.
Dès la fin du journal, Cyprien Signy.
La grande histoire de la tricherie dans les jeux télé dans le cercle de l'info.
Et à 8h20, je recevrai le professeur David Kayat qui publie aux éditions First, prévenir et soigner le cancer pour les nuls.
RTL Matin.
Le soulagement a donc fait place au doute en Mayenne après la disparition, puis la réapparition de Lisa, cette jeune adolescente partie courir en forêt qui dit avoir été retenue et agressée par deux ravisseurs pendant plus de 24 heures. Une version, un scénario qui laisse les enquêteurs pour le moins perplexes, à tel point qu'ils ont décidé d'interroger de nouveau la jeune adolescente aujourd'hui. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour.
Ce qui est certain et relativement étonnant dans ce genre d'affaires, c'est que le dispositif de sécurité mis en place en début de semaine a été presque intégralement levé.
Et oui, le calme revient subitement à Sablé-sur-Sarthe. Aucune interpellation n'a eu lieu et ce jeudi, la procureure a mis fin aux investigations sur le lieu des faits. Autrement dit, les dizaines de gendarmes lèvent déjà le camp. Les fouilles dans la forêt de Bellefranche n'auront duré que 24 heures. Rien de concluant n'a été retrouvé et pour cause, la police manque de descriptions sur les ravisseurs. De même, le dispositif devant la maison de la jeune fille a été levé.
Valentin, si l'on en croit ce matin nos confrères du Parisien, il semble que plusieurs incohérences dans le discours de la jeune ado amènent les enquêteurs à sérieusement douter.
Oui, Lisa était entendue pour la première fois mercredi matin. Elle était encore sous le choc et décrit alors une camionnette verte dans laquelle elle dit avoir été enlevée, mais les policiers n'en ont retrouvé aucune trace, ni dans les témoignages, ni sur les caméras. Ensuite, la jeune femme n'est pas arrivée à donner de description physique des deux ravisseurs, alors qu'à aucun moment elle n'aurait eu les yeux bandés. Résultat impossible de lancer un avis de recherche, mais ce qui interpelle aussi les enquêteurs, ce sont ces blessures légères qui ne correspondent pas aux coups de poing qu'elle dit avoir subis. Alors rien ne dit que la jeune fille ment, le flou de son récit peut être dû au choc, mais les vérifications ne permettent pas pour le moment de dire si Lisa a dit toute la vérité.
Merci Valentin pour toutes ces dernières précisions. Garde à vue levée pour Aminata Diallo, la joueuse du Paris Saint-Germain soupçonnée d'être mêlée à l'agression la semaine dernière de sa coéquipière Keiram Rawi. Aucune charge retenue, même si cela ne présage en rien des suites de cette enquête.
RTL, il est 8h03, c'est un bras de fer diplomatique, une guerre des nerfs et des images et au milieu, plusieurs milliers de migrants, hommes, femmes, enfants, pris au piège.
Et qui tentent aujourd'hui de survivre dans des campements de fortune aux confins de la Biélorussie, à quelques mètres seulement de la frontière polonaise. Derrière les barbelés, c'est l'Europe, cet Eldorado que ces réfugiés ont cru pouvoir rejoindre, sciemment trompés par un gouvernement biélorusse qui a tout organisé pour les faire venir jusqu'à Minsk, la capitale, et s'en servir ensuite comme monnaie de chantage. Notre envoyé spécial sur place, Nicolas Burnand, a pu recueillir plusieurs témoignages qui tendent à prouver la machination montée par l'État biélorusse. Khalid est syrien, il a cru lui aussi au mirage.
J'ai quitté la Syrie il y a 3 ans pour rejoindre la Jordanie. Et après quelques mois, on m'a dit que l'on pouvait aller en Biélorussie pour rejoindre l'Europe. Alors j'ai demandé un visa à l'ambassade pour 200 dollars environ. J'ai acheté un billet d'avion en ligne. Je suis resté 6 jours à Minsk. Il y avait beaucoup de gens dans les rues. D'Irak, d'Afghanistan, d'Afrique. Après cela, je suis allé à la frontière avec mon fils de 14 ans. On transportait de la nourriture avec de l'eau dans un sac. Mais on a tout terminé le premier jour. On était très fatigués, on ne pouvait pas marcher dans l'obscurité. Au premier passage, les gardes frontières polonais nous ont arrêtés et nous ont refoulés. Tout ça, c'est un jeu politique de la Biélorussie. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne m'avait dit que la route était si dangereuse. Beaucoup de personnes sont mortes dans la forêt.
Un témoignage recueilli par l'envoyé spécial de RTL, Nicolas Burnand. L'Union européenne devrait approuver dès lundi de nouvelles sanctions contre le régime du président Loukachenko, qui a menacé hier de couper le gazoduc qui permet d'acheminer vers l'Europe le gaz russe.
Et direction la Chine, à présent, elle fut l'une des premières à alerter le monde entier sur les dangers du Covid.
Oui, dès février 2020, la journaliste Zhang Zhan publie sur Internet des reportages reportage montrant notamment les conditions chaotiques qui règnent alors à l'hôpital de Wuhan, tandis que le monde entier ignore encore à l'époque l'ampleur de l'épidémie. Elle sera pour cela jetée en prison, puis condamnée à 4 ans de réclusion. En grève de la faim, son état de santé s'est depuis nettement dégradé dans l'indifférence du gouvernement chinois. Sur place, notre correspondant Stéphane Pambrin.
Elle fait partie des très rares journalistes citoyens chinois à avoir témoigné en images des premières heures de l'épidémie à Wuhan. Des hôpitaux débordés, des médecins en larmes et une ville de 11 millions d'habitants enfermée, totalement coupée du monde. Âgée de 38 ans, Zhang Zhan est une ancienne avocate qui s'est donnée pour mission de traquer la vérité sur les ravages causés par le Covid-19. Durant plus de 3 mois, elle poste plus de 120 vidéos sur les réseaux sociaux avant d'être arrêtée. En décembre 2020, c'est en fauteuil roulant qu'elle s'est présentée devant le tribunal, mentalement et physiquement épuisée selon ses proches. Elle a été condamnée à 4 ans de prison. Son état de santé s'est fortement dégradé ces derniers temps. Cette femme qui mesure 1m77 ne pèse plus que 40 kilos. Elle est nourrie de force par une sonde nasale et son frère affirme qu'elle risque de mourir à tout instant. Elle n'a eu aucune visite depuis plus de 3 semaines. En 2019, déjà après avoir dénoncé la censure en Chine, Zhang Zhan avait été condamnée à 8 mois de détention pour trouble à l'ordre public.
Stéphane Pambrin en Chine pour RTL.
Il est 8h07, c'est une commune qui a voté au pourcentage près. Au pourcentage près, comme la France en 2017, et RTL est retourné à Emerin, dans la banlieue de Lille.
Comme notre rédaction le fait régulièrement, afin de recueillir l'humeur des futurs électeurs. Avec nous en studio, William Galibert, c'est vous qui avez discuté avec eux. Et paradoxalement, l'intérêt grandit pour la campagne, mais on cherche toujours l'enthousiasme.
Ouais, c'est un bon résumé. J'ai croisé des habitants concernés par ce vote, par cette élection, parce qu'ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Mais c'est vrai, ça ne provoque pas de passion, pas d'envie. D'ailleurs, quand j'arrive avec mes gros sabots et mon micro RTL, la phrase que j'entends à chaque fois, c'est ça.
Je suis pas très politique.
Mais quand on creuse un peu, on découvre des citoyens très préoccupés par le pouvoir d'achat, la sécurité, l'écologie, par tout ce qui fait la vie, tout simplement. Le problème, c'est que le casting, quel que soit son camp, a du mal à convaincre. Prenez Patricia, électrice de droite, qui résume les choses. Elle qui n'est séduite ni par Emmanuel Macron, ni par ses concurrents.
Bah, je trouve qu'il est mignon, attention, hein, je vais pas dire. Bah, il a de la classe, mais je trouve qu'il est jeune. Il est un peu prétentieux quand même. Hein.
Mais effectivement, il faut voir si les autres sont mieux, quoi.
Bah, on le sait point. Je vous l'ai dit, Zemmour, moi, il me fait peur. Il a une tête de corbeau. Xavier Bertrand, je l'aime bien, mais je ne le vois pas avec l'étoffe de président. Le problème, c'est qu'on nous fait des promesses et puis ben, au pays des promesses, on meurt de faim.
Voilà, c'est un bon avertissement pour tous les candidats. Donner envie, ils ont encore 5 mois pour faire changer d'avis les habitants d'Emerin et le reste des Français.
Merci William Galibert.
Je vous en prie.
Là, l'énergie toujours plus chère et les factures difficiles à payer pour de nombreux ménages dans ce contexte. EDF annonce à l'instant qu'elle va cesser de couper l'électricité à ses clients pendant ses clients particuliers en cas d'impayé. C'est ce qu'annonce à l'instant l'entreprise.
C'est une première. Acheter français, oui, encore faut-il avoir les moyens. Le Made in France entre bonne volonté et réalité financière. C'est l'enquête de la Brigade RTL dans un instant. A tout de suite. Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. Le salon du Made in France a donc ouvert ses portes hier, parc des expositions à Paris. 100 000 visiteurs sont attendus d'ici dimanche.
L'occasion ce matin de répondre à cette question. Pourquoi fabriquer en France est-il à ce point plus cher? C'est l'enquête de la Brigade RTL. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
On va prendre un exemple avec vous ce matin à l'approche de l'hiver et du froid. On va s'intéresser au textile. On dit que le fabriqué en français est plus cher. À quel point?
Alors, pour m'en rendre compte, j'ai décidé au salon de m'acheter une tenue presque complète fabriquée en France. Sous-vêtements, pantalons, t-shirts et chaussures. 5 articles qui m'ont coûté 352 euros. J'ai regardé les tarifs dans les grandes chaînes de prêt-à-porter. La même sélection de produits s'affiche à 103 euros seulement.
Ah oui, c'est tout de même 3 fois plus cher.
Oui, mais en fait, la hausse est en trompe-l'œil. Parce qu'à qualité équivalente, la différence est beaucoup plus faible. Avec les grandes marques produites pour la plupart en Asie, hein, on avoisine les 300 euros pour mes 5 articles. Le Made in France reste 50 euros plus cher, mais le surplus est assumé par Aurore de la société alsacienne Storks, parce que le prix fait vivre décemment des artisans français.
Nous, on est sur de la fabrication locale, avec des personnes juste à côté de chez nous qui ont besoin d'emploi.
Si je vous achète une paire de chaussettes, ça veut dire que je crée un peu d'emploi?
Ben, carrément. Là, vous pérennisez, il y a 7 emplois dans le plus petit atelier de chaussettes en France.
D'autant que produire en France, Pierre, c'est aussi forcément plus écolo.
Oui, bien sûr. On estime que les vêtements importés ont parcouru en moyenne près de 6000 km, contrairement aux baskets vendues 139 euros par Alain Perron, responsable de Cécile.
La marque Cécile, c'est une marque qui revendique moins de 4 kg de CO2 par paire émise, là où une chaussure, une on peut pas citer de marque évidemment, mais une sneaker concurrente fabriquée au Vietnam ou fabriquée en Chine va être aux alentours de 13-14.
Donc c'est trois fois plus propre quoi.
C'est trois fois moins sale.
Ce que disent ces fabricants français finalement, c'est que le consommateur, en utilisant peut-être moins mais mieux sa carte bleue, peut à la fois protéger la planète et créer de l'emploi et des richesses en France.
Pierre Herbulot et la Brigade RTL et ce salon donc du Made in France jusqu'à dimanche, porte de Versailles à Paris.
Très intéressante démonstration. Le chiffre a de quoi susciter l'optimisme. Dans les trois prochaines années, on estime à 50 000 le nombre d'emplois créés par le marché du vélo, 6 000 d'ici 10 ans.
Ouais, parmi les profils dont la filière manque cruellement, les mécaniciens, les réparateurs de vélos devant la pénurie de main d'œuvre, l'enseigne Decathlon recherche en urgence une centaine de candidats. Elle a d'ailleurs lancé sa propre formation. Nul besoin de CV, juste une bonne dose de motivation. Reportage au Décathlon de Thionville en Moselle, Samuel Goldschmidt.
Il pourrait doubler ses effectifs dans son magasin tellement il a de clients. Nicolas Dambrune est le responsable de l'atelier Cycle. C'est lui qui forme la première promotion de ses futurs renforts.
Aujourd'hui, on a changé notre manière de recruter parce que la difficulté était bien qu'on n'y arrivait pas. Donc en fait, on a ouvert un petit peu nos horizons et du coup, on recrute, oui, sans CV et en plus sur tous les réseaux qui existent nationalement.
Les trois rescapés sont maintenant très pointus dans leur domaine.
Du coup, qu'est-ce que ça donne là sur ton vélo ?
Donc là, j'ai refait le filetage de la pâte de dérailleur.
Théo a 21 ans, il est encore tout étonné d'avoir trouvé si rapidement ce métier.
J'ai fait un bac STI 2D, j'ai contacté la mission locale qui m'a ensuite mis sur cette formation, étant donné que je cherchais dans la mécanique, peu importe la mécanique.
Et alors ?
Ben, j'en suis quand même bien content du fait que ça se passe en entreprise. Donc on apprend les gestes techniques, c'est pas que de la théorique ce que je recherchais.
Le magasin est déjà à la recherche de 12 nouveaux candidats pour une nouvelle année de formation encore plus poussée à partir de février 2022.
Reportage signé Samuel Goldschmidt. Et puis demain, la FFPM organise son championnat de France. FFPM, Fédération Française de Pull Moche. Ah. Ce n'est pas une blague. Enfin, si, c'en est une, mais la fédération, elle existe vraiment. Le concours a donc lieu demain à Millau dans l'Aveyron. Et c'est Yannick Chopin, le maître de cérémonie. Il y avait les Miss France, il y a aujourd'hui les Pull Moche.
Je suis le Geneviève de Fontenay de la Fédération Française de Pull Moche. Mais c'est très sérieux, monsieur. C'est une fédération qui est née il y a 3 ans. Il se trouve que cette année, c'est Madame la maire à Millau qui est présidente du jury. C'est eux qui décident de la mouchitude, entre guillemets, du pull.
Il n'y a pas de critère qui permet de dire je suis sûr d'avoir un pull moche.
Aucun critère. Ah non, absolument pas. Le but, c'est vraiment de titrer quelqu'un qui a trouvé, déniché quelque chose de rare, qui a fait quelque chose, qui a fait un pull un petit peu fantasy. Enfin voilà, si vous êtes dans l'art du mauvais goût, on va de H à Z, quoi.
Ah, vous aurez compris, le seul critère, c'est le mauvais goût, explique Yannick Chopin, président donc de cette fédération, joint ce matin par Patrice Thomas. Et on me dit que William, qui nous aide à préparer chaque matin cette matinale, fait figure déjà de favori.
Ah bon, ce championnat ça c'était gratuit, ça.
C'est agréable, oui, alors vraiment.
C'était gentil.
Non. Bon, alors, donc ça, c'était le journal de Dominique Tenza, puis là, c'est la voix de Cyprien Sini que vous venez d'entendre.
Bonjour.
On vous retrouve dans un instant.
Absolument, on va parler de la grande tricherie dans les jeux télé.
Vous êtes bien aimable avec votre pull moche.
Non, il est beau, le mien, il est uni.
Bah, il est triste.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
On va passer un bon moment. 8h18, bonjour Cyprien.
Bonjour à
vous
tous.
Vous surfez avec la triche dans les jeux télévisés.
Ah bah, vu l'ampleur de l'affaire de la semaine. Le Koh Lanta Gate, mardi soir, séisme sur Koh Lanta.
J'ai besoin de vous parler, Théora. Ouais. Vous venez avec moi ?
Le ton est grave. Oui. Denis Brognard convoque l'aventurier. Théoura et...
Vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large de la nourriture. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger.
Oui. Théoura s'est fait livrer des steaks frites en fourbe pendant que ses petits camarades se battaient pour de graineries. Entre autres, psychodrame sur Koh Lanta. Et donc, sanction.
J'ai mangé deux fois. C'est un comportement déloyal. Vous allez quitter l'île des bannis, vous allez directement
en prison. Non, je rigole. Alors, il n'est pas allé en prison, il s'est juste fait éliminer. Mais depuis, le pauvre Théoura est accablé de toutes parts. Alors que franchement, tricher sur des jeux télé, ça a toujours existé. On a même retrouvé cette archive de 73 pendant... Interville, Guilux est aux manettes et il pose une question au maire d'Anglette.
Monsieur le maire, d'un gigot, d'un poulet ou d'un rôti, qu'est-ce que vous désirez manger dans votre banquet ? Vous avez 5 secondes pour répondre, dépêchez-vous. Vite ! Gigot !
Il répond gigot. Et là, bah c'est le drame du gigot.
Vous avez malheureusement perdu cette première manche à cause de la personne qui a soufflé. Il y a quelqu'un qui a crié gigot. Monsieur le maire avait hésité avant. Il a répondu que gigot après avoir entendu quelqu'un lui souffler. Nous alluderons donc cette première manche.
Et je pense que je peux vous dire que Guy Lux et Simone Garnier, bah ça rigolait pas avec les tricheurs.
Et tout de suite.
Monsieur le maire, on est navré. Et je pense que de toute façon, pour la deuxième
manche, nous ne pas dans une finale,
tout le monde sera fair-play.
Nous ne pouvons pas, dans une finale, laisser la moindre personne se livrer à une tricherie.
Inflexible, on vous dit.
Ah oui.
Inflexible. Interville dans l'œil du cyclone aussi. En 1997.
Lors de la joute entre Ancenis, Loire-Atlantique et le Puy du Fou, Vendée, l'arbitre aurait aidé à la victoire de l'équipe vendéenne.
Guilux n'est plus là.
Ben non, il n'y a ça plus Guilux pour toi, mais
oui,
ça continue.
Ça change tout.
Avec un léger signe du doigt indiquant la bonne réponse, l'image est accablante et bien des années plus tard, passage aux aveux.
Le producteur, c'est le patron. Gérard Louvain dit arrêtez de nous emmerder avec Interville, on trichait tout le temps sur Interville.
Oui, un mythe s'effondre, top la vachette. Bon, et puis, dans l'émission de Nagui sur France 2, certains se font régulièrement attraper la main dans le sac en train de copier la réponse du voisin.
Jérémy, je vais vous le dire très calmement, Jérémy. Déjà, sur la première manche, ça a été chaud. Là, avant de répondre, vous regardez ce que Laetitia répond. Je vous demande de faire super gaffe. Je vous le dis franchement. Et avec le sourire. Ça passe une fois, ça passera pas deux fois.
Mais la plus grosse tricherie de l'histoire du jeu télé, ça reste tout de même...
Let's play. Who wants to be a millionaire?
Le qui veut gagner des millions britanniques, ah oui, avec ce candidat et ses complices qui tous, au moment où il lit la bonne réponse en réfléchissant à haute voix. Vous avez entendu ?
Oui.
La petite toux qui lui dit que c'est la bonne réponse, ça l'a amené jusqu'au million, qui touchera finalement jamais puisqu'il a été démasqué par la production.
Invraisemblable. Merci Cyprien. Bon week-end. On vous retrouve dès lundi matin dans la matinale.
À lundi.
Bon sport.
Merci.
RTL Matin. Le choix d'Yves Calvi.
Il est 8h21, bonjour David Kayat.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, cancérologue, on dit oncologue désormais. Vous nous avez souvent intéressés, même passionnés, vous nous avez parfois surpris, mais alors là ça dépasse tout, parce que prévenir et soigner le cancer, pour les nuls, que vous est-il passé par la tête? Fallait vous adresser à tout le monde, c'est ça?
Ben oui, il est temps, je crois, que les gens commencent à comprendre cette maladie, ne serait-ce que pour en avoir moins peur. Or, il y a tellement de mythologie, de fantasmes autour du cancer, les gens ne comprennent pas ce qu'est un cancer, ne comprennent pas comment une boule dans le sein, on a enlevé la boule, 3 ans plus tard, elle revient dans le foie. Mmh. On ne comprend pas comment manger une banane ou une pomme, ça va jouer sur notre risque de cancer. On ne comprend rien au cancer et ça crée une ambiance, un malaise qui fait que c'est encore plus difficile de s'entendre diagnostiquer cette maladie.
Alors, ce livre est en tout cas vraiment extrêmement clair et fort didactique. C'est le propre de la collection pour les nuls, bien entendu. Si je vous ai bien lu, le meilleur moyen d'éviter un cancer, c'est la prévention et notamment l'évitement de certains comportements. Alors, on ne le dira jamais assez et on le retrouve au cœur de votre livre. Et je pense qu'il faut commencer par ça. Le tabac est la première cause évitable, je dis bien évitable, de cancer.
30% des cancers sont dus au tabac. Vous savez, le cancer, c'est 30% le tabac. Et là, on peut faire quelque chose. 30% les hormones, 20%, et là, on ne peut pas faire grand-chose. 20% l'alimentation. Puis après, les virus, les bactéries, les radiations. Le tabac, on peut faire quelque chose. Malheureusement, toutes nos stratégies, nos politiques anti-tabac sont en échec. Il faut dire la vérité. Quand on nous a raconté l'année dernière qu'il y avait moins de fumeurs parce qu'on était passé à 10 euros le paquet, en fait, dans les semaines qui ont suivi cette annonce, on a vu deux choses extraordinaires.
Oui.
Un, l'État a recueilli 1,5 milliard de plus de taxes sur le tabac, donc ça veut dire qu'on n'en a pas vendu moins. Et deuxièmement, la douane a fait un papier extraordinaire, un rapport dans lequel ils disent que 17% du tabac fumé en 2020 en France provient de circuits illicites. Alors bien sûr, on ne les a pas comptés, ceux-là, plus les transfrontaliers, machin, bon. Donc, en fait, si vous voulez, le tabac était la première cause de mortalité par cancer en 90. En 2020, c'est toujours la première cause de mortalité. Donc, l'idée que le prix va augmenter, que ceci, ça ne marche pas.
Alors, il faut agir sur notre alimentation, que doit-on éviter ?
Alors, il faut
une fois qu'on a...
Alors, voilà encore un fantasme, le régime anti-cancer. Alors, je suis un peu responsable, parce que j'avais fait un livre il y a 20 ans.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Ça s'appelait Le vrai régime. C'est l'éditeur qui choisit le titre. Mais moi, honnêtement, dans la page 2 du livre, il y avait dit « Arrêtez de rêver, il n'y a pas de régime anti-cancer ». Bon, le régime anti-cancer, c'est un régime qui suit les saisons, qui est basé sur la diversité. Il faut arrêter d'avoir peur de son assiette, d'abord. Parce que le stress, c'est pas bon. Alors, on se dit la charcuterie, la viande rouge. Vous savez, si vous écoutez tout le monde, il faut plus manger de sucre, ça nourrit les cellules cancéreuses. Pas de sel, ça fait de l'hypertension. Pas de charcuterie de viande, cancer du côlon. Pas d'alcool, ça donne tous les cancers. Enfin, donc, à un moment donné, il faut arrêter. On peut manger de tout, on peut boire un peu, on peut... Voilà, mais simplement, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, en fait, vous le trouvez dans la nature. La saisonnalité. Par exemple, il y a des très belles études, maintenant, plus personne ne conteste, qui disent que si la charcuterie... consommer avec excès. Hein, je parle plus de 200 grammes par semaine. On est là, c'est le type qui ne fait pas de sport, qui fume, qui boit et tout. C'est pas vous et moi avec le sandwich au jambon beurre. Hein. Mais si on mange beaucoup de charcuterie, mais qu'on prend des antioxydants naturels, hein, vitamine E, vitamine C, un yaourt, etc., et ben l'effet disparaît. Parce que dans la nature, il y a à la fois de quoi faire de la charcuterie, c'est-à-dire des animaux, des porcs, etc. Oui. Mais il y a aussi les fruits et les légumes qui sont l'antidote.
Donc, la logique de ce que vous nous expliquez, ça s'appelle tout simplement une alimentation équilibrée.
Équilibrée, saine, avec de tout. Et surtout, ce qui n'est pas bon, c'est les excès d'excès. Mais l'excès de temps en temps, c'est pas mauvais pour la santé et c'est certainement très bon pour le moral.
Voilà, vous faites la différence entre les excès d'excès et l'excès ponctuel,
voilà.
Le jour où on se fait plaisir.
Voilà.
Page 447, il y a les 10 vrais faux sur l'alimentation. Vous faites aussi une série de vrais faux, donc de vrais faux. Vous passez en revue des idées reçues sur les produits du quotidien. Donc non, boire du lait ne donne pas le cancer. Non, les sucres ne participent pas à la croissance des tumeurs. Et en revanche, ça m'a étonné, vous dites que le soja est responsable, en tout cas peut jouer un rôle dans certains cancers. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, les cancers hormonodépendants, le cancer du sein par exemple. Mais c'est, encore une fois, c'est quand c'est consommé. Alors, ça a un effet à la fois protecteur, parce que ce sont des phyto-œstrogènes, des œstrogènes d'origine végétale, qui sont meilleurs pour la santé que les œstrogènes d'origine humaine, si vous voulez, même s'ils sont synthétisés aujourd'hui. Mais en même temps, leur consommation par excès va induire ce qui n'est jamais bon, un déséquilibre dans ce qui devrait être équilibré. On a des sécrétions naturelles d'hormones. L'homme et la femme survivent à cette sécrétion depuis des milliers d'années. C'est qu'elle n'est pas mauvaise. Si on bouleverse cet équilibre, rien ne va plus.
Alors j'ai tant de questions à vous poser. Vous faites aussi une liste, et moi j'ai trouvé ça passionnant, des dépistages et des examens qu'il faut nécessairement faire en fonction de notre âge et en mesure qu'on vieillit. Pour trouver un cancer, il faut forcément le chercher ?
Ah oui, c'est la plupart du temps, sauf pour le cancer du testicule par exemple, mais pour la plupart des cancers, diagnostiquer tôt, ça se guérit beaucoup mieux que diagnostiquer plus tard. Or, un cancer, au début, souvent, ne parle pas. Pourquoi pas ? Parce que le corps, c'est mou. Et une tumeur, une boule qui se développe dans du mou, eh bien, avant qu'elle arrive à écraser l'organe d'à côté, provoquer un dysfonctionnement d'un organe quelconque, d'une fonction vitale, et donc qu'il y ait un symptôme, il faut du temps. Par exemple, le poumon, si vous allez chez le tripier, le poumon, c'est mou. Eh bien, quand un cancer se développe dans le poumon, vous ne le sentez pas. Sauf au moment où il va toucher une artère, et là, ça va saigner, vous allez cracher du sang. Mais bon sang, c'est tard. Si on pouvait l'avoir avant, alors il y a une très belle étude, plusieurs études, c'est un livre très sérieux, c'est toute une équipe qui a travaillé pendant un an, mais qui montre qu'un scanner faible dose, donc qui irradie peu, et qui est fait chez les hommes de plus de 50 ans qui ont fumé plus d'un paquet par jour pendant 20 ans, donc des gros fumeurs, eh bien réduit la mortalité, mais par cancer du poumon, de façon fantastique, parce que presque tous les cancers qui sont diagnostiqués, ils sont dépistés, c'est-à-dire il n'y a pas eu de symptômes, et ils sont presque tous curables, du coup, avec un peu de chirurgie, presque rien.
Alors en effet, est très sérieux, mais il est fait avec, dans un sens pédagogique extrêmement important. Un dernier mot, il nous reste une trentaine de secondes. Est-ce que l'évolution des techniques et des traitements vous rend optimiste pour la suite, vous qui avez consacré
totalement,
votre vie au cancer ?
Totalement. Moi, j'étais là, il n'y avait même pas la spécialité de cancérologie quand j'ai commencé à être cancérologue. Et là, on voit avec l'immunothérapie, avec les thérapeutiques ciblées, avec les vaccins ARN, dommage, on n'a pas le temps d'en parler, mais toutes ces nouvelles approches, elles sont fantastiques.
C'est un des livres les plus étonnants que j'ai eu entre mes mains concernant le cancer. Merci beaucoup. David Kayat, prévenir et soigner le cancer, donc pour les nuls, dans cette fameuse collection que tout le monde connaît. Professeur David Kayat, bonne journée.
Merci,
merci
beaucoup
de nous voir aujourd'hui sur RTL. Dans un instant, notre météo à 7 jours, c'est normal, à l'orée du week-end, avec Louis Bodin. Restez avec nous.
RTL Matin.
Et si nous parlions météo à 7 jours, Louis Bodin ?
Oui, donc nous allons parler de fraîcheur.
Ça va pas être facile.
Non, ça va pas être facile, non. Parce qu'effectivement, on a plusieurs éléments qui vont un peu se succéder au cours de ces prochains jours. Hein, voilà, pour parler simplement, avec aujourd'hui, on l'a dit, encore du temps sec et plutôt ensoleillé dans la plupart des régions, encore quelques averses près de la Méditerranée. Et puis arrivera une nouvelle perturbation par le nord-ouest, avec déjà des nuages. Bah, c'est elle qui, demain, va apporter une dégradation en traversant toute la France du nord-ouest vers le sud-est, donc avec des passages nuageux. Quelques pluies, il n'y en aura pas beaucoup. C'est plutôt des petites bruines qui devraient circuler sur la France. Toutes les régions seront concernées, sauf tout près de la Méditerranée, où là, ça sera l'inverse. Hein. Les perturbations de ces derniers jours vont petit à petit partie glisser vers le sud. Donc on va retrouver enfin du soleil, notamment sur la Corse. Et puis cette perturbation, après son passage, on trouvera des éclaircies dans le nord-ouest, mais avec encore beaucoup de nuages. Les températures resteront fraîches, hein, autour de 10, 12 degrés dans la moitié nord, un peu plus de 15 degrés dans le sud. Dimanche, c'est un peu la même chose, hein. C'est frais, c'est humide, ça reste nuageux. Alors peut-être quelques éclaircies près de l'Atlantique ou encore sur les bords de la Méditerranée. Un peu de neige en montagne. Oui. Elle tombera dès 1500 mètres sur les Alpes, pas de grosses quantités, hein, ou encore du côté des Pyrénées. Puis à partir de lundi, l'anticyclone revient. Donc petit à petit, on va retrouver du temps sec avec ce que l'on connaît, des brouillards, quelques gelées le matin, plutôt des éclaircies l'après-midi. Encore quelques averses entre les Alpes et la Corse sous forme de pluie ou de neige. Puis ça, ça va nous accompagner a priori toute la semaine. Donc un temps de nouveau assez calme avec des brumes, des brouillards, des gelées le matin parfois quand le ciel sera dégagé la nuit et des températures à peine de saison l'après-midi.
Eh bien voilà, voilà. C'est une météo à 7 jours et c'est une météo automnale.
Automnale, oui, c'est bien, ça rassure.
Oui, puis je vous rappelle ce qui est quand même une des principales informations de la matinée, c'est que EDF a donc annoncé qu'il allait cesser de demander la coupure de l'électricité pour ses clients particuliers en situation d'impayé et cependant toute l'année. Merci beaucoup Louis Baudin, on va partir autour du monde dans un instant.
RTL autour du monde.
Les bars et les boîtes de nuit de Bruxelles et de Liège seront peut-être un peu plus vite ce soir qu'un vendredi habituel. Je m'explique. Un collectif d'associations féministes appelle à une soirée de boycott du monde de la nuit et à manifester contre les agressions sexuelles dont les femmes sont les premières victimes. À l'origine du mouvement, une vague de témoignages sur les réseaux sociaux à l'encontre d'un employé de bar bruxellois. Bonjour Caroline N.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Tout commence début octobre quand au moins 2 plaintes pour viol et agressions sexuelles sont déposées contre cet employé de bar.
Oui, il y a une information judiciaire et tout ouverte par le parquet de Bruxelles qui ne communiquera pas davantage, mais l'affaire s'ébruite et prend de l'ampleur sur le réseau social Instagram. Un hashtag, un mot-clé, balance ton bar et un compte sont créés mi-octobre pour appeler à témoigner. Plusieurs jeunes filles confient alors avoir été victimes ou témoins de viols et d'agressions sexuelles de la part d'employés de bars de la capitale. 2 établissements sont au départ visés dans le quartier étudiant de Bruxelles. L'un des barmans verserait de la drogue dans les verres pour ensuite profiter de ses victimes. Le GHB, appelé aussi la drogue du violeur, provoque malaise, perte de connaissance et de mémoire. Celle que nous appellerons Sandra en a été victime en boîte de nuit, mais elle n'a pas osé aller voir la police car même sa mère ne l'a pas prise au sérieux.
On commençait à danser, à s'amuser comme d'habitude et vers 3h du matin, je prends un verre et là, bah, trou noir. Donc tout de suite, je lui ai dit « Maman, je me suis fait droguer, ça va pas ». Elle a tout de suite rencontré le médecin. Le médecin lui a expliqué que j'avais trop bu, que ça allait passer, que c'était pas très grave. Je me suis dit, mais non, j'ai pas beaucoup bu. Enfin, j'étais à 3 verres, quoi, donc c'est pas possible. Et je me suis dit, non, mais ça sert à rien. Si déjà ma famille me croit pas, eux, ils vont pas me croire. J'ai laissé tomber.
Trou noir, attouchement, agression ou viol dans des toilettes. Depuis un mois, sur le compte Instagram, les témoignages se multiplient. Le nombre d'établissements visés aussi. Plus de 25 bars et discothèques s'y retrouvent aujourd'hui.
Et pour répondre à l'inquiétude croissante des femmes, les gérants tentent de trouver des solutions pour sécuriser leurs établissements.
Oui, plusieurs idées émergent. Celle de mettre un couvercle sur les verres pour éviter qu'une substance ne soit versée. Ou encore de créer un label Safe Bar, bar sécurisé, où par exemple du personnel mixte serait engagé. L'initiative ne séduit pas du côté des associations féministes qui craignent qu'une fois de plus, la responsabilité des agresseurs soit déplacée sur les victimes.
Et pour ces associations, Caroline, c'est aux responsables politiques de prendre le relais.
Oui, et depuis les premiers témoignages, des réunions ont eu lieu à l'échelle locale d'abord, puis au niveau national. Une réforme pénale est en cours avec une définition bien plus large du consentement. Le réseau des centres de prise en charge des victimes sera étendu. De 3 aujourd'hui, il en existera 10. Le mouvement Balance ton bar a permis de réveiller les autorités et les gérants de bars. Le boycott ce soir a pour but de les faire avancer davantage.
RTL autour du monde, merci beaucoup Caroline N, notre correspondante en Belgique. Et évidemment, nous suivrons ces manifestations avec vous. La face cachée de la une, c'est dans un instant avec Isabelle Choquet.
RTL Matin, la face cachée de la une.
Il est 8h37, merci à vous tous qui nous écoutez. Alors ce matin, Isabelle Choquet, ben vous nous emmenez au Soudan, le premier producteur mondial de gomme arabique.
Oui, je ne sais pas vous, mais moi la première fois que j'ai entendu ce nom, c'était dans une chanson. Le carnet.
carnet à spirale de William Scheller avec ses collages. Oui, ça colle la gomme arabique. Mais pas seulement. C'est en fait un ingrédient essentiel pour l'industrie mondiale. Et pourtant, les paysans du Soudan ne tirent pas beaucoup de profit de cette ressource en or. J'ai lu ça cette semaine dans Courrier International. La gomme arabique, c'est en fait de la sève d'acacia. On l'appelle comme ça parce qu'historiquement, elle était exportée depuis les ports d'Alexandrie ou de Djeddah. C'est un produit vieux comme le monde. Les Égyptiens l'utilisaient déjà pour la peinture des hiéroglyphes ou l'embaumement des momies. Au Moyen-Âge, elle a beaucoup servi aux apothicaires en Europe. Puis, au 19e, on l'a utilisée pour les imprimés textiles. Et aujourd'hui, eh bien, elle est juste indispensable à tous les étages de l'industrie. Parce que c'est à la fois un agent épaississant, un stabilisant, un émulsifiant. Du coup, on la trouve dans les bonbons et les boissons parce qu'elle empêche le sucre de cristalliser. C'est grâce à elle que les chocolats ne graissent pas les doigts, que le sel reste collé sur les chips et que les bières moussent. Mais elle sert aussi à produire des médicaments, des cosmétiques, de la peinture ou des adhésifs et même les cigares de la Havane. Il n'existe aucun ingrédient comparable, dit un exportateur soudanais. Rien ne peut la remplacer, des gens ont cherché en vain. La preuve, en 97, les États-Unis ont imposé des sanctions au Soudan, mais la gomme arabique a été épargnée. Tout le monde sait pourquoi, dit l'exportateur. Et oui, la gomme arabique, c'est un ingrédient du coca.
Tiens.
Dans le Kordofan, dans le sud du Soudan, cette gomme, c'est la principale source de revenus des paysans. Alors elle coule en boules dorées sur les troncs d'acacia et tout le village participe à la récolte, les femmes, les enfants. C'est comme ça depuis des générations. Ensuite, une poignée d'acheteurs font le tour des villages. Ils payent en partie en nature avec de la farine, du sucre, des médicaments parfois. Un système qui en fait ne profite pas aux producteurs, même quand les prix augmentent au niveau mondial, et bien c'est pas répercuté au plan local. C'est ce que dit Mounir Elias, qui est responsable de l'Institut de recherche sur la gomme arabique. En fait, les producteurs soudanais récupèrent tout juste 4 à 5% du produit fini. Ce sont surtout les entreprises étrangères qui captent les profits parce que ce sont elles qui transforment la gomme brute. Alors, le premier conglomérat du pays, le groupe Dal, a commencé à traiter de petites quantités de sève d'acacia dans son usine de Khartoum, mais bon, on est encore loin du compte. En attendant, des entreprises soudanaises commencent à vendre la gomme arabique comme un super aliment, un aliment qui aiderait à renforcer le système immunitaire. Une sorte de passerelle entre les rites ancestraux et la modernité. Car dans les villages, on a toujours utilisé la sève d'acacia pour soigner les petits maux du quotidien. On en boit le matin, mélangé à de l'eau, ça nettoie l'estomac et ça prépare pour la journée. C'est ce que dit un paysan. Mounir Elias se souvient même d'une autre utilisation un peu plus ésotérique. Quand il était enfant, il a appris le Coran en l'écrivant avec un mélange de charbon et de gomme arabique sur des tablettes en bois. Ensuite, dit-il, on les rinçait à l'eau et on buvait cette eau. On dit que c'est une façon de se pénétrer de la sagesse du Coran et d'être protégé. La gomme arabique, moisson dorée du Soudan, c'est un article à lire cette semaine dans Courrier International.
C'est presque enivrant. Merci beaucoup. On se retrouve lundi.
Avec plaisir.
Avec
bon
plaisir.
Week-end.
Merci.
RTL, vous êtes comme ça.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, ce matin, nous allons à Givran, près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, dans l'atelier de Carole Abdou-Collin. C'est une costumière et habilleuse de spectacle qui crée des vêtements anti-UV, oui, anti-UV, pour les personnes brûlées, blessées ou sensibles au soleil. Elle les présente depuis hier au salon du Made in France à Paris, porte de Versailles. Bonjour Patrice Gabart.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
L'idée de ces vêtements anti-UV lui est venue justement après avoir été elle-même victime de graves brûlures dans un accident de travail.
Oui, c'était il y a bientôt 5 ans, le 10 février 2017, une date qu'elle n'est pas prête d'oublier. En repassant des costumes pour une troupe de théâtre.
C'était en travaillant, c'était avec ma centrale vapeur. C'est-à-dire que j'ai dévissé le bouchon, l'eau était encore trop chaude. Ça s'est projeté sur mon bras principalement, un peu mon abdomen. La brûlure était au troisième degré profond, donc il a fallu faire une greffe de peau.
Mais Carole se heurte alors à un problème inattendu. La difficulté de trouver des vêtements spécifiques pour protéger ses brûlures du soleil. Et c'est finalement la salle d'attente pour les soins des grands brûlés à l'hôpital de Nantes qui finit de la convaincre.
En voyant aussi autour de moi beaucoup d'enfants qui se brûlent les mains avec les poêles à bois maintenant, les barbecues l'été. Donc c'est comme ça que l'idée a germé. Je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas moi.
Un véritable challenge pour cette femme de 51 ans qui découvre le monde de l'entrepreneuriat et profite alors du Covid avec l'arrêt des spectacles et donc l'arrêt de ses contrats pour peaufiner son projet baptisé Tissol Protect avec une tortue marine pour logo.
Parce que elle a une carapace et la carapace, c'est une protection. Pour les personnes qui ont eu des accidents comme moi ou des interventions ou des maladies comme un cancer de la peau, parce qu'après, il faut bien évidemment se protéger quand on a eu un carcinome ou un mélanome. Ou des personnes qui sont allergiques au soleil, donc il faut vraiment faire attention, la peau peut réagir méchamment.
Le textile utilisé est un mix coton-polyester fabriqué en Alsace pour des t-shirts et des mitaines façonnés ensuite en circuit court dans les Pays de la Loire.
Et c'est une protection à 98%. Depuis ces derniers mois, on manque de matières premières. Je me suis dit, mais de toute façon, moi, c'est évident. Il faut que je commence par là et je fais fabriquer en France. Et j'ai trouvé par moi-même tous les corps de métier dont j'avais besoin. Quand on est tout seul, c'est pas évident puisque je viens pas non plus du milieu du commerce ou de l'entrepreneuriat. Donc j'apprends tout toute seule. J'avance au fur et à mesure. Je pensais pas que je pourrais aller jusque-là. C'est tellement compliqué l'entrepreneuriat parce que franchement, il y a des jours où j'avais envie de tout balancer. Enfin, d'arrêter, et je me suis dit, mais pourquoi je suis rentrée dans cette galère?
Mais pas question d'arrêter en si bon chemin.
C'est incroyable en fait. Si on remettait au début, oui, je recommencerai. C'est une très très grande aventure, ouais. C'est vraiment une belle aventure qui commence, je pense. Je fourmille d'idées. C'est incroyable en fait. On se dit avec du recul tout ce que j'ai pu franchir comme obstacle et réussir à les surmonter en fait.
Depuis hier et jusqu'au 14 novembre, Carole Abdou-Collin, membre du collectif Pays de la Loire, expose ses vêtements anti-UV dans le cadre du salon Made in France, porte de Versailles à Paris. Une première reconnaissance.
Merci beaucoup Patrice Gabart pour cette rencontre avec Carole Abdou-Collin et rendez-vous sur rtl.fr pour réécouter tous les épisodes de Vous êtes comme ça. Dans un instant, Laurent Gérard, son équipe. Bonne journée sur RTL.
Yves Calvi.
RTL Matin.
RTL Matin.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour Patrick Bruel, qu'est-ce qui vous arrive encore?
Non mais t'es pas au courant du drame?
Du drame? Il y en a tellement en ce moment.
Oui, mais celui-là, c'est spécial. Mmh. Moi, tu sais bien que j'ai toujours été de gauche. Je me casse la voix pour elle dans mes chansons engagées. Mmh. Au poker, je suis de gauche aussi. Quand j'ai un full dans la main, je file toujours une carte à mon adversaire pour qu'il ait au moins une paire. Mmh. Même l'huile d'olive que je produis, elle est de gauche. Ah. Si l'ouvrier... On achète 50 litres à 70 balles le litre. Je lui offre un poster dédicacé. Je suis comme ça, c'est mon côté de gauche. Je ne peux rien, je suis de gauche.
D'accord. Quel est le rapport avec la prochaine élection présidentielle, en fait?
Faut que ce soit moi.
Vous, Patrick, candidat de la gauche?
Bon. Mais oui, je peux le faire, Hollande. Tu me files un clébard à aller promener. Je t'emballe une danseuse de l'opéra en deux temps, trois mouvements. On m'appelle Casse-Noisette dans le milieu.
Alors, je suis pas sûr que ça suffise. Hein.
Si tu préfères, je te fais Mitterrand. Mm-hmm. Oui. Tu me colles un chapeau sur la tête, tu me files un bâton et je gravis la roche de Solutré. Ouais. Je crois aux forces de l'esprit. Après la génération Mitterrand, la génération Patrick.
Ouais. Et ben c'est n'importe quoi. Hein.
Sinon, tu me colles une barbichette et l'huma sous le bras et je suis Jean Jaurès. Ouais, tu me files les lunettes de John Lennon et la moustache de Martinet. Je te fais Léon Blum. C'est la lutte finale. Au fond, nous, et demain.
Eh ben voilà. Merci. C'est bon.
Ça
allez.
Va
Jean-Humain. Faut se reposer,
Jean-Humain.
Oui.
Bonjour à Sané.
Ah, bonjour Philippe de Villiers. Vous faites quoi là?
Je fais le poirier. Regarde, fille de radio.
Oui.
Comme je tiens bien sur mes mains.
C'est vrai.
Hein, ouais. C'est un de mes farfadets du Puy du Fou qui m'a appris.
C'est impressionnant. Pourquoi vous faites le poirier dans le studio?
C'est pourtant évident, la gueuse. J'obéis à mon frère, le général, en faisant preuve de courage, puisque... Le titre de son livre l'indique, l'équilibre est un courage.
Bon, écoutez, revenez droit là, parce que là, à force d'avoir la tête en bas, vous êtes tout rouge. Hein.
Mais oui. Tu as raison, fille de radio. Je n'ai nulle envie de ressembler à Bayrou la Mimolle.
Ah oui.
Mon frère, le général, le dit, il faut être ferme, mais pas turgescent.
Oui, bon, alors le livre de votre frère est, dit-on, un pas vers une possible candidature à l'Élysée.
La France a besoin d'un chef, un vrai. Ouais. Pas le bleu bit qui occupe à l'heure actuelle l'Elysée. Et s'il le faut, je m'engagerai aux côtés du général De Villiers.
Et quelle aide allez-vous lui fournir exactement?
Nous sommes en guerre et le général a besoin d'une armée. Je mettrai la mienne à sa disposition.
Vous avez une armée, vous?
Bien sûr. Au lieu de distraire les Allemands en claquettes et les roast beef en short, mes chevaliers, mes écuyers, même mon fauconnier du Puy du Fou aideront le général à prendre le pouvoir. Sonne l'olifant, la gueuse. La bataille pour Pierre le Hardi a commencé.
Oui, enfin, beaucoup disent aussi que le livre de votre frère Pierre est un simple coup de librairie.
Taillot, ferme ta gueule, répondit Pierrot.
Bonjour Michel Chevalet.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Michel Chevalet, une rumeur agite la toile depuis quelques jours. Entre le 15 et le 30 novembre, à la suite d'un formidable dégagement d'hydrogène dû au rapprochement de Vénus et de Jupiter, le Soleil deviendrait bleu ?
Oui, et la Terre se retrouverait plongée dans une obscurité totale pendant 15 jours. Alors, info, intox, le blackout, comment ça marche ? C'est très simple, oui. Je vous explique. Regardez, oui. Je sors cette maquette de modèle réduite de planète. Là, c'est Vénus. Et celle-là, c'est quoi ? C'est Jupiter.
Pardon Michel Chevalet, mais elles sont bizarres vos maquettes.
Imaginez maintenant que ce puissant spot du studio RTL soit le Soleil. Je vais exposer Vénus et Jupiter.
Oui, bah c'est peut-être pas la peine. Hein.
Pour qu'il y ait jaillissement d'hydrogène, il faut qu'il y ait échauffement, activation, frottement entre les deux planètes. Vous allez voir, reculer. Ça va être très impressionnant.
Merci Michel Chevalet. Je crois que tout le monde a bien compris. Hein. C'est de l'intox.
Bon week-end.
Bon, en même temps, je me demande s'il n'aurait pas préféré 15 jours d'obscurité. Le gouvernement diffuse un spot radio décrivant la conduite à tenir en cette période de contagion par le coronavirus.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique.
Avant de parvenir à cette version finale, de nombreuses personnalités ont fait des essais. Nous avons retrouvé leur bout d'essai. Commençons par celui de José Bové.
Information coronavirus. Bon, bah force est de constater que des petites bêtes essayent de nous faire tousser. Alors pour éviter ça, il faut adopter des gestes simples. Ne pas trop se laver les mains, car la bestiole adore l'humidité. Ne pas éternuer dans votre soupe, ou alors il faut la faire rebouillir après.
Non.
Utiliser des mouchoirs pas trop pleins.
Non.
Et pas les sucer le soir à la veillée. Et si vous êtes malade, allez tousser dans le McDo le plus proche.
Bon, merci. François Hollande, en tant qu'ancien président, a lui aussi enregistré sa version du spot d'information.
Alerte à Malibus. Mes chers compatriotes qui toussent, j'ai la solution pour vous protéger du virus chinois qui tue tout le monde et qui se propage par le regard. Surtout, ne vous affolez pas. Il n'y a rien à craindre. Je m'en occupe personnellement. Faites comme moi et adoptez ces gestes simples. Ne sortez jamais sans casque de scooter. Teignez-vous régulièrement les cheveux avec une teinture hydroalcoolique. Prenez votre température 6 fois par jour à l'heure des repas et réfugiez-vous sur les hauteurs de Tulle. Vive la température! Vive la fièvre.
Bien. Autre personnage public a prêté sa voix au spot officiel et en a profité pour faire passer un message, le charismatique leader de la CGT, Philippe Martinez.
Bon, en ce moment, il y a du coronavirus dans l'air et que c'est encore un truc inventé pour pas qu'on puisse faire la grève. Donc, que pour se protéger et protéger les autres du virus, ne vous prenez aucune précaution. Que vous embrassez les gens sur la bouche et vous éternuez dans le coude du voisin. Que comme ça, tout le monde est malade et que ça bloque tout le pays comme en décembre dernier.
Bien entendu, nos amis artistes ont aussi voulu prêter leur voix à la campagne officielle contre le virus. Céline Dion, par exemple.
Alerte au coronavirus. Non mais tabernacle, vous l'avez vu, cette maudite bébête, là, comme elle est vilaine. Ça donne pas envie de l'attraper. Elle est toute ronde, cette créature, avec des trucs roses qui dépassent de partout, tout autour de la tête. On dirait Adèle avec ses bigoudis. C'est affreux, cette chose-là, c'est affreux. Encore un choix, encore une heure, encore une toux, encore un mouchoir.
Quant à Jane Birkin, elle s'est souvenue des conseils de Serge Gainsbourg pour lutter contre toutes les maladies.
Serge, il disait toujours que pour se protéger de tout le virus, il faut les étouffer dans le nez avec la fumée des cigarettes. Et puis, il faut aussi se rincer la bouche plusieurs fois par jour avec solution hydroalcoolique de Ricard dans de l'eau. Alors moi, dans ma sac à main, c'est le bordel. J'ai toujours un bac à glaçons.
Merci à toute l'équipe. On vous retrouve bien entendu à tout moment, vous le savez, sur le site rtl.fr et dans les matinales de notre week-end. On a le grand plaisir d'accueillir ce matin Nolwenn Leroy avec Steven Bellery dans Laissez-vous tenter. Elle va passer cette demi-heure avec nous. Elle est déjà dans nos studios, elle boit tranquillement son petit café. Et on va écouter un extrait de cet album avec une chanson qui s'intitule « Tu me plais ».
Et tu m'en comble, de fond en comble, parce que c'est moi, parce que c'est toi, que malgré tout c'est comme ça, parce que t'aimes plus que tout la passion, l'amour fou et le bruit des glaçons, les fruits de la passion interdits, les frissons dans la nuit, les puissants.
Cet album sort aujourd'hui, il est intitulé La Cavale, il a été créé et enregistré avec Benjamin Biolay. Nolwenn Leroy dans ce studio dans quelques instants avec nous, il sera 9h.
Parce que t'aimes plus que tout.
d'ici là, Cyril Lignac va nous donner une excellente recette. Alors vraiment, restez avec nous, de riz cantonais, vous allez vous régaler.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi. RTL Matin. Yves Calvi.
Bonjour, cher Cyril.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, c'est Fabienne qui vit à Outreau et qui voudrait connaître votre recette de riz cantonais. Merci, Fabienne. Je rêve de connaître la recette de riz cantonais de Cyril Lignac.
Yves, il adore le riz cantonais. Mais moi aussi, au demain.
Quand c'est bon.
Oui, quand c'est bon.
Ça peut être très, très mauvais. Hein.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'on le mange toujours dans les restaurants chinois,
ouais.
Mais on peut le faire à la maison, c'est pas grand-chose. Ah. Et j'avoue que je l'ai fait la dernière fois pour Toussaint Cuisine, quand on avait créé cette recette, mais j'en fais pas naturellement à la maison. Oui. Et maintenant, je le fais tellement c'est simple.
Ah, ça vous a donné envie, donc, et c'est tellement bon que vous la faites
exactement.
À la maison.
Exactement, on prend alors une sauteuse ou un petit wok, comme on veut. On verse de l'huile de pépin de raisin, et on commence à cuire un oignon ciselé qu'on a coupé fin. Ce qui est bien, c'est qu'on va tout mettre dans la casserole, et tout cuire dedans, on va mijoter.
Déjà là, ça me met de bonne humeur.
Voilà, donc l'oignon, ensuite on prend de l'ail, qu'on coupe finement, et on met à l'intérieur.
Déjà coloration.
Ensuite, à côté, on bat les œufs, et on commence à écarter un petit peu l'ail et tout ce qu'on a mis dedans. Et on verse l'œuf dedans. Mmh. On va commencer à le cuire. Alors moi, je fais avec des baguettes. Oui. Comme ça, je les mélange un petit peu. Et on fait des œufs un petit peu brouillés.
Oui.
Bien entendu, à côté, on a cuit le riz.
Oui.
Alors, soit dans moi, je fais dans un cuit vapeur.
D'accord.
Un cuiseur à riz.
Quelle sorte de riz?
Alors, du riz, un peu à sushi, un riz rond.
D'accord.
Un petit peu. Mais si à la maison, on n'a pas, on prend un riz traditionnel, un riz basmati. Moi, je fais simple à la maison. Hein. Riz basmati qu'on cuit. Et ensuite, hop, on le verse à l'intérieur.
D'accord.
Et là, on mélange les œufs, l'ail. Et là, on va ajouter donc des petits pois ou des légumes verts de saison. Mmh. On mélange à nouveau. Je coupe des petits dés de jambon blanc dans le maigre. Je mets à l'intérieur. Je déglace à la sauce soja. Mmh. Je mélange bien. Il faut que ça accroche un peu le fond, là. Comme ça caramélise bien.
Et
je le mange comme ça moi, je le mets dans un bol. Et ça me fait un peu mon repas le soir.
Mais oui, bien sûr, ça fait un repas complet.
Exactement.
C'est formidable.
J'ai besoin de
rien d'autre. Les enfants adorent. Hein.
Ah, mais les enfants adorent.
Ah, on peut poivrer.
C'est vraiment bon, ça.
Ah, mais.
Le riz cantonais, c'est vrai.
J'ai vu, poivrer légèrement à la fin.
Oui, on met un petit peu de poivre, un petit peu de piment d'Espelette. On peut rajouter des petites feuilles de coriandre si on a envie d'un peu de fraîcheur.
Tout ça charmant. Vous nous l'avez fait déguster. Merci, Cyril. Cette recette est à retrouver sur RTL.fr. On vous dit à lundi. Et moi, je remercie Fabienne parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir une bonne recette de riz cantonais. C'est fait. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Dominique Tenza.
Les enquêteurs souhaitent l'interroger une nouvelle fois. La jeune fille de 17 ans en partie courir en forêt lundi est portée disparue pendant plus de 24 heures, dit avoir été séquestrée par deux individus, mais sa version comporte plusieurs incohérences. Elle sera donc de nouveau auditionnée ce vendredi. Aucune interpellation n'a pour l'instant eu lieu. Trois migrants portés disparus dans la Manche après avoir tenté de gagner l'Angleterre sur des kayaks. Les recherches menées hier n'ont pas permis de les localiser. Elles ne reprendront pas ce matin. Le bras de fer s'est encore intensifié hier entre la Biélorussie et la Pologne. Les migrants massés à la frontière et qui attendent toujours de franchir les barbelés ont bien été pris au piège par le gouvernement biélorusse. C'est lui qui les a acheminés jusque-là afin de s'en servir comme monnaie de chantage. Des témoignages recueillis sur place par RTL attestent de cette opération orchestrée par le régime autoritaire du président Loukachenko. Et puis EDF ne demandera plus la coupure d'électricité pour les ménages ne payant pas leurs factures. Et ce, toute l'année, non plus seulement durant la trêve hivernale. Le géant de l'énergie l'annonce ce matin, à partir du 1er avril prochain, il exigera à la place une limitation de la puissance, ce qui permettra d'avoir accès à des usages essentiels tels que le fonctionnement du frigo ou la recharge d'appareils électriques.
Merci beaucoup Dominique. Je sais que vous aimez beaucoup Nolwenn Leroy, alors j'ai envie de vous dire, restez avec nous puisqu'elle est dans ce studio en direct pendant une demi-heure.